C'est marqué dans la Gada qu'on va lire le son de Pessah. Afilu kulanu chachamim, même si nous sommes tous des sages, kulanu nevonim, des gens très intelligents, kulanu zekenim, des gens érudits, connaisseurs dans la Torah, mitzvah, allez-nous les saper, bitiat misraim, nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire tous, on va se réunir en famille, et chacun il va parler, il va raconter tout ce qu'il sait sur la sortie d'Égypte. Alors, c'est une mitzvah spéciale, de Sipur Yetziat Mitzrayim, de raconter ce soir-là la sortie d'Égypte. Maintenant, on a un problème, parce que, à part ça, il y a une autre mitzvah, de Zecher Yetziat Mitzrayim, de mentionner, de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours. Tous les jours, il y a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. Tous les matins, on doit mentionner la sortie d'Égypte. Tous les Shabbats, on mentionne la sortie d'Égypte. Toutes les fêtes, on mentionne la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette notion de rappeler la sortie d'Égypte, de toute façon, on l'a toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette nuit-là, en plus, qu'on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et en plus, en détail? Ça veut dire que c'est marqué que chaque mot, ce soir-là, vous savez, ce soir-là, il y a une grande mitzvah, c'est de parler de la sortie d'Égypte. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez entendu, vous savez des livres en hébreu, en français, en russe, tout ce que vous pouvez raconter de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah. Chaque mot que vous allez prononcer, c'est une mitzvah. Mais ce soir-là, il y a un grand yetzer hara de parler d'autre chose. Par exemple, il y a des gens qui se couchent tous les soirs à 9h du soir. Mais le soir de Pessah, ils se couchent à 4h du matin. Ils parlent du foot, ils parlent de n'importe quoi. Parce que comme il y a une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte, alors ils ont un yetzer hara de parler d'autre chose. C'est très très dur. Si vous voulez bien faire cette mitzvah, et vous êtes en famille, des gens sérieux, vous dites, écoutez, ce soir, on va essayer de parler que de ça. Vous allez dire, ah, c'est barbant. Un soir par an, t'as 364 jours pour parler du PSG, il te reste un soir pour parler de la sortie d'Égypte. Chaque mot que vous prononcez, 613 mitzvot. C'est marqué comme ça, les anges avec Hachem, ils descendent pour regarder, pour écouter les béné Israël qui parlent de la sortie d'Égypte. Donc c'est une mitzvah spéciale, ce soir-là, de raconter. Deuxième problème qui est posé par la mitzvah de la Gada, si on dit Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, alors imaginez, bon moi je veux bien que quelqu'un qui a fait Tshuva il y a 3 semaines, il peut raconter à l'autre la sortie d'Égypte. Mais quelqu'un qui fait la mitzvah depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, il commence à la connaître l'histoire. D'accord? Surtout que les 3/4 des gens ils sont convaincus que s'ils ont vu le film alors ils ont tout compris. Donc ils disent encore, la mer elle va s'ouvrir, et quand est-ce que tu vas là? D'accord. Donc, troisièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils se racontent? D'accord? Vous pouvez pas imaginer maintenant, ce Rav il connaît tout le Talmud par cœur, vous allez lui dire, bon tu sais, alors ils ont pris leur ballot et ils sont... Il va même pas comprendre ce que tu dis, il parle pas ta langue. Alors qu'est-ce qu'ils se racontent entre eux les Chachamim quand ils parlent de la sortie d'Égypte, en quoi ça les concerne? Ça y est, ils ont compris, ils ont déjà lu tout le Chumash, ils ont lu 74 commentaires de la Gada, ils ont lu tout le Midrash Rabbah, tout le Midrash Tanchuma, tout le Midrash Talpiot, ils ont à peu près une cinquantaine de Midrashim, ils connaissent tout. Alors qu'est-ce qu'ils se racontent entre eux? Et pourtant c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de raconter ce soir-là la sortie d'Égypte. À part ça, vous savez, il y a d'autres mitzvot. En même temps, il y a une mitzvah de boire les 4 verres de vin ou de jus de raisin selon la santé, de manger le maror, d'accord? Alors, quel rapport entre ces éléments-là, comment ça fonctionne? On va essayer de comprendre. Mais d'abord, il faut comprendre qu'il y a plusieurs règles dans cette soirée. C'est marqué dans la Mishnah dans Psachim, Davkuf Tetzain, Amud Alef, Mosgolo Kotsheni, Vekan Aben Shoel Aviv. On verse le deuxième verre. Vous savez qu'on verse d'abord le premier verre. C'est le verre du Kiddush. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Ils oublient que le verre du Kiddush, c'est le premier verre des 4 kossot. Donc quand vous buvez le premier verre, vous devez penser à vous rendre quitte de la mitzvah des 4 kossot, des 4 verres. D'accord? Parce qu'il y en a qui comptent à partir du deuxième, alors ils disent oui, il est le quatrième, et ils boivent celui d'Eliyahu Navi. Oh. D'accord? Donc, après, quand on verse le deuxième verre, c'est marqué Vekan Aben Shoel. Pourquoi est-ce que l'enfant, il va poser la question? Parce que, ils disent les Chachamim, si vous avez l'occasion, vous regardez dans la Gemara, dans Psachim, on explique plein de choses qu'il faut faire ce soir-là qui sont des choses bizarres. Par exemple, on n'a jamais le droit d'arrêter le Talmud Torah des enfants, sauf le soir de Kippour et le soir de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on a un message spécial à leur transmettre. Donc, on va faire des choses spéciales. Donc, par exemple, on fait le Kiddush, puis après, on enlève le plateau. Alors, les enfants, ils comprennent pas. Alors, on verse un deuxième verre de Kiddush. Alors, les enfants, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ce soir-là, on doit leur donner des friandises, des bonbons, des choses. Ils demandent comment ça se fait que ce soir, on est gentil. D'accord? Pourquoi faire? Pour que l'enfant pose la question. Quelle question? Manishtana. En quoi est-ce que cette nuit est différente des autres? D'accord? Maintenant, je sais que vous allez me dire, mais attendez, ça se passe pas comme ça chez nous. Ouais, chez nous, c'est toujours le petit Marcel, c'est le plus petit, c'est lui qui fait Manishtana. Allez, Marcel, Manishtana, mais Marcel, il a 34 ans. Vous comprenez? Et puis, est-ce que les gens, ils posent vraiment la question? Manishtana, vous croyez qu'ils réfléchissent? Qu'est-ce qu'il a de différent cette année? Surtout que lui, c'était la même chose l'année dernière. Manishtana, les Chachamim, ils ont posé la question, parce qu'en vérité, il faut que la seule manière de comprendre la réponse, c'est de susciter la question. Et malheureusement, c'est comme ça. Vous savez, comme je vous expliquais déjà plusieurs fois dans ce cours, je pense quelques centaines de milliers de fois, c'est que on croit qu'on a compris, puis en fin de compte, on n'a pas compris. Parce que comprendre, ça veut dire faire corps avec la chose. Donc on met des années à comprendre. Type, il parle d'amour. Il faut à peu près 12 ans de mariage plus 6 accouchements pour commencer à parler d'amour avec sa femme. Avant, rien que tu te fais du. C'est rien, c'est force de frottement, ça, c'est pas de l'amour. Ouais. Alors les gens, ils parlent d'amitié. Ah, il faut avoir des vrais problèmes. Les gens, ils parlent d'épreuves. Mais il faut avoir des épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend du temps pour comprendre ce que tu es censé comprendre. Et on a remarqué une chose. La seule manière pour que ça accroche, c'est qu'il y a un terrain de sensibilité au préalable. Sinon, tu comprends pas. Ouais, c'est comme toi, tu dis, oh, j'ai compris ce qu'il voulait me dire mon père. Parce qu'à l'époque, quand il te l'a dit, c'était de la théorie. C'est seulement après que c'est devenu de la pratique. C'est comme quand vous voulez mettre du carrelage au mur. Vous avez un mur qui est peint, vous mettez du carrelage, ça n'accrochera jamais. Ah, il va vous dire le maçon, je t'explique. Tu prends un marteau, tu tapes tout le mur. Et si tu peux, tu grattes. Parce que tu fais des encoches. Quand tu fais des encoches, des creux dans le mur, alors le béton, quand il va prendre, il va s'accrocher, la colle, elle va s'accrocher dans quelque chose. Mais s'il est lisse, le mur, c'est pareil. Quand tu veux que quelqu'un t'écoute, quand tu veux que quelqu'un t'entende, il faut qu'il t'écoute. Donc aujourd'hui, il t'écoute pas. Il comprend rien ce que tu veux. Il dit, ah, tu me fais la morale, il me prend la tête. Oh, les vieux, sur pareil, ils répètent. C'est vrai, ils te prennent la tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est théorique. Parce que tu es dans les vapes. Mais un jour, quand tu seras en face de la réalité, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il m'avait dit mon père? Qu'est-ce qu'il... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ça te pénètre, il faut que tu aies la question. Donc, les Chachamim nous ont dit, ce soir, on va passer un très grand enseignement. On va passer l'enseignement de la sortie d'Égypte. Mais pour que cet enseignement, il ait un impact, pour qu'il ait un pouvoir de pénétration chez la personne, pour qu'il provoque quelque chose, d'accord? Pour pas que Chas v'Shalom, il tombe dans cette grave maladie qui s'appelle la culture. C'est une très grave maladie, vous savez. Je vous souhaite pas d'attraper cette maladie. Ils appellent ça la culture juive. Le patrimoine identitaire. Qu'Hachem nous protège. C'est pour ceux qui font du grec ancien et de l'hébreu moderne. Hachem Ishmor. La religion, c'est une religion vivante. Elle n'a d'intérêt que parce qu'elle provoque chez toi un renouvellement, elle provoque chez toi un éveil. Mais si elle n'a rien à voir avec ton vécu, mais que ça reste de la culture, c'est pas intéressant. Il vaut mieux mourir ignorant que d'être un érudit inopérant. Exactement pareil. Le pouvoir de pénétration de la religion, c'est le seul intérêt qu'elle a. Donc maintenant, la seule différence, c'est que c'est toi qui crées le terrain. C'est-à-dire, si tu crées la sensibilité, la Torah, elle pénètre en toi. Maintenant, tu veux que la Torah, elle pénètre chez l'enfant. Alors, il faut que l'enfant, il ait une question. Parce que s'il n'a pas de question, ça va pas rentrer. C'est comme une chute dans une blague. Vous créez un flou, un trouble, et hop, il plonge. C'est pareil une pub. Vous créez un impact, et après, moi j'étais choqué. J'adore analyser les pubs, c'est très intéressant. On parle à la télé parce que là, c'est les yeux qu'il faut analyser. Mais quand vous voyez une affiche, vous dites c'est marrant, il n'y a rien. Il y a un grand paysage avec une espèce de ponton comme ça, et au bout, il y a un type assis. Et en bas, il y a écrit Jean. Ou la Lewis, ou la Cohen, je ne sais pas. Ouais. Tu dis, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas grave. L'image, elle est belle. Elle a créé un impact. Aucun intérêt, le message. Vous pouvez couper, ça me dérange pas. Ouais. Aucun intérêt, le message. Ce qui est intéressant, c'est l'impact. Donc, tu crées un impact et tu fais passer un message. Exactement pareil. Les Chachamim, ils ont dit, on veut passer un très grand message ce soir-là. C'est le message de la sortie d'Égypte. Mais pour ça, il faut créer un impact. Parce que si l'enfant, il pose pas Manishtana, il pose pas la question Manishtana, ça veut dire, il y a rien qui va, ça va pas rentrer chez lui. Ça va pas l'impressionner. Même en français, on dit une impression. Vous savez, quand on dit en français, quelle est votre impression? Ça veut dire une impression. Ça veut dire, est-ce que c'est imprimé chez toi ou non? Alors quand on dit, j'ai été très impressionné, on va voir. Si la photo, elle est encore blanche, le papier, il est encore blanc. Donc, il n'y a pas d'impression. Quand tu es impressionné, ça se voit sur ta figure. Quand une pellicule, elle a été impressionnée, ça se voit. Quand un papier photo, il est impressionné, ça se voit. Alors pourquoi toi, quand tu es impressionné, ça se voit pas? Qu'est-ce qui reste imprimé chez toi? Et c'est comme ça qu'on voit la valeur de quelqu'un. Comment est-ce qu'il évolue? Comment est-ce qu'il grandit? On voit que les choses qui l'ont sensibilisé, elles ont laissé une marque. Sinon, Chas v'Shalom, ça devient de la culture. Ou alors ça devient de l'impression industrielle. Vous savez, les gens ils vont au cinéma, il y a des effets spéciaux. Ah, vraiment, les... Après il sort, alors, c'était bien. J'ai passé un bon moment. Mais t'es fou quoi. Tu te rends compte, ils ont dépensé 174 millions de dollars que pour les effets spéciaux. Et quels effets ça a fait chez toi? Rien. Quel genre d'effet? Il faut que la vie, elle te fasse des effets spéciaux. Si elle te fait rien, la vie, ça veut dire que tu es devenu une carpe. Ou là, une boîte de conserve. Il y a des gens comme ça. Alors? T'es content de vivre? Ça fait de la peine. C'est marqué ici. T'es une personne vivante. D'accord? Donc les choses t'impressionnent parce qu'elles t'imprègnent. Pourquoi elles t'imprègnent? Parce que t'as créé un terrain de sensibilité. Ça, c'est la première règle de la soirée de Pessah. Il faut créer chez l'enfant un degré de curiosité pour que ça pénètre. Mais n'oubliez jamais que vous aussi, vous êtes un enfant. Donc chez vous, il y a un adulte et un enfant. L'adulte, c'est celui de l'extérieur. L'enfant, c'est celui de l'intérieur. L'enfant, il est flou, il peut changer. Il est en créativité maximum. L'adulte, il est figé parce qu'il est face au monde extérieur. Et le monde extérieur lui demande des réponses précises. Mais la créativité, elle est chez l'enfant qui est en lui. Maintenant, quand tu veux évoluer dans la vie, il faut que tu préserves ton côté enfant. Maintenant, ton côté enfant, c'est pas ton côté gaga. Vous comprenez? Les gens disent, vous savez, moi, je suis très sensible. Je suis très, très sensible. Ça, c'est une maladie, c'est autre chose. Non, tu dois être efficace, tu dois être profond, tu dois être intense. Mais à part ça, tu dois garder un degré de créativité intact. C'est quoi le degré de créativité intact? C'est d'être capable d'avoir un nouveau regard. Par exemple, j'ai rencontré comme ça un très grand businessman, je lui dis, mais comment vous faites pour trouver exactement, il me dit, je me mets à la place du client. Tu dis, c'est une formule toute faite. Eh ben, essaye-toi. Essaie d'être spécialiste dans un truc, d'être spécialiste dans un domaine, et tu te mets comme si tu connaissais rien et tu regardes. Essaye de faire ça. Parce que ton degré d'efficacité, c'est ton côté adulte. Mais ton côté inculte, ton côté enfant, ton côté créatif, c'est ton côté intérieur. Maintenant, si tu arrives à mettre ton intérieur au regard de l'extérieur, t'évolues. Exactement comme la, vous savez, la lave. Vous savez que vous avez remarqué, la lave, elle est noire. Parce qu'elle est sèche. Elle est oxydée avec l'air. Mais la lave qui est en dessous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la lave qui est au-dessus. Donc celle qui est au-dessus, hop, elle passe en dessous. Et maintenant, la lave, elle est rouge. Mais celle qui est en contact avec l'air, elle devient noire. Elle sèche. Et hop, ça recommence. Et bien, la vie, c'est pareil. Il y a la lave extérieure, la lave intérieure. À l'intérieur, t'es en fusion. À l'extérieur, t'es figé. C'est-à-dire, toi, t'es figé. C'est-à-dire, t'es obligé de donner des réponses. On te pose une question. Faut que tu sois à l'heure. Faut que tu rendes un compte-rendu. Faut que tu finisses ton travail. Donc, t'es obligé d'être efficace. Ça, c'est le côté figé de la personne, la face extérieure. Mais la face intérieure, elle est en changement perpétuel. Alors ça, c'est qu'on a la différence entre le professionnel et le spontané. L'intérieur, c'est la spontanéité. L'extérieur, c'est le professionnalisme. Maintenant, c'est quoi le grand danger de quelqu'un? C'est qu'il a sacrifié sa spontanéité au profit de son professionnalisme. Très dangereux. Donc quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui peut se poser des questions. Quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui se pose plus de questions. Comment on reconnaît un spécialiste? Comment? Vous savez quoi, comment? Parce qu'il réfléchit plus. Il a des cas de figure et des principes. Cas numéro 3, solution numéro 19. Cas numéro 2, solution numéro 3B. Il réfléchit plus. Or, tout le monde sait que le cerveau, c'est un muscle. Quand on l'utilise pas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus t'es spécialiste, moins tu réfléchis. Et moins tu réfléchis, plus t'as de chance de finir idiot. Donc plus t'es spécialiste, plus t'as de chance de finir idiot. Mais c'est normal, parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens ils disent, écoutez, moi je me suis tanné la tête jusqu'à mon doctorat, vous croyez pas que je vais encore me casser la tête? Mais Charlot, le but du doctorat, c'était pas d'avoir un diplôme, c'était d'obtenir un réflexe de réflexion perpétuelle. Donc quand tu es devant une situation, soit tu dis, oh, de toute façon je connais, et tu réfléchis pas, donc tu deviens idiot. Soit tu dis, je connais, mais je vais réfléchir. C'est marqué dans Pirkei Avot. C'est un des premiers Pirkei Avot. C'est marqué, avum et tudin badin. Avum et tudin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jamais dire, j'ai déjà vu cette affaire. Il faut être capable de se reposer la question. Ben, c'est exactement pareil dans la vie. Il y a des gens, tous les jours, ils vont au travail, ils disent, oh, c'est comme hier. Dommage pour eux, ils perdent la moitié de leur vie. C'est pareil. Il y en a tous les jours, ils rentrent à la maison, ils disent « Oh, c'est la même femme. » « Oh, c'est les enfants d'hier. » « Oh, c'est la même maison. » Ouais, alors il dit « Je veux du nouveau. » Ça veut rien dire le nouveau, parce que c'est toi qui es nouveau. Maintenant, celui qui développe chez lui ce qu'on appelle le « Koach Haitrachut », la force de renouvellement. Pourquoi ? Parce que sa face intérieure, il la remet à l'extérieur. Donc c'est pas seulement que toi tu dois être capable d'éveiller l'intérêt chez un enfant pour qu'il ait une problématique et donc qu'il apprécie la réponse que tu vas lui donner qui s'appelle la sortie d'Égypte. Il faut que toi-même tu sois capable de te reposer la question et de te dire qu'est-ce que moi à 35 ans je suis en train de me raconter la sortie d'Égypte. Vous comprenez ou non? Si vous allez me dire mais c'est la mitzvah, c'est... il y a aucune mitzvah d'être idiot. Même pas un super idiot. Il n'y a pas de mitzvah. Il y a une mitzvah de faire les mitzvot. Fais les mitzvot. Mais pourquoi tu veux les faire bêtes? De toute façon, tu vas les faire. Alors fais-les intelligemment. Alors c'est marqué ici. C'est marqué, tu dois dire manishtana. Alors dis-moi, toi. Tu dis manishtana, toi? Donc ça veut dire que tu n'as pas de créer sensibilité. La preuve. Tu veux la preuve? N'importe quel domaine de la vie. Tu dis, par exemple, tu bois un verre d'eau tous les jours. Tu dis, bon, c'est de l'eau. C'est quoi? C'est de l'eau. Viens avec moi. Hop, on va au CNRS. Vous pouvez me parler de l'eau 8 jours. Oh, je savais pas que c'est... Oh, c'est de l'eau. Mais n'importe quoi. Les molécules, 10 ans. La médecine, 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah écoute, bon, je l'avais pas vu sous cet angle. Razak, tu viens de comprendre qu'en fin de compte, c'est une question d'angle. C'est pareil. Tu regardes cette personne-là, tu dis, oh, il est naze. Tu la regardes comme ça, tu dis, oh, il est comme moi. Ah bah tu vois... Je dis, oh, j'ai rien à voir avec. Puis tu dis, oh, ça ressemble. C'est une question d'angle. Exactement pareil. On t'a pas demandé de changer toute ta vie. On t'a pas demandé de changer toute ta tête. On t'a dit, change d'angle. Tu regardes comme ça? Regarde comme ça. Essaye. Tu dis, essaye. Je sais pas, les gens, ils ont peur. Comme si le cerveau, on pouvait attraper une entorse. Les gens, ils ont peur de faire un claquage du cerveau. Ils veulent pas trop l'utiliser. Ils ont peur. Oh. Ils le disent, tu commences à leur poser, ça fait mal à la tête. Oh, qu'est-ce qu'il y a? De quoi t'as peur? Ils ont peur, ils veulent pas réfléchir. Aime bien un petit boulot simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu tries des trombones. Qu'est-ce que... Donc premier élément, c'est quoi? C'est que il faut créer la sensibilité. Deuxièmement, et ça c'est un truc incroyable, on fait participer le goût. Vous savez qu'il y a une mitzvah le soir de Pessah de manger la matzah. Alors, on mange la matzah. Maintenant, extraordinaire, la matzah c'est quoi? Il dit le Ramban, enfin déjà la Torah elle dit, c'est ce qu'ont mangé les Béné Israël quand ils étaient en Égypte. Mais le Ramban il dit mieux, lui il dit qu'à un moment il a été pris en otage, et il était esclave pendant quelques mois, le temps qu'on paye la rançon, et il a vu qu'on leur donnait à manger des matzot. Pourquoi? Parce que la matzah elle est un peu longue à digérer, je pense que vous avez fait l'occasion de vérifier. Et puisqu'elle est un peu difficile à digérer, longue à digérer, donc elle peut nourrir longtemps. Donc on donne ça à manger aux esclaves. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, au moment où elle mange la matzah, elle fait la mitzvah de matzah. Maintenant, il y a une mitzvah de sentir le goût de la matzah, par exemple. On ne doit pas manger de la matzah le jour même de Pessah. On ne doit pas manger, il y en a même qui disent pendant un mois avant, on n'en mange pas. Pourquoi? Pour qu'au moment où tu le mets dans la bouche, tu as envie de sentir le goût. Et comme tu as envie, tu vas mieux sentir le goût. Vous savez que l'envie et le goût, ça va ensemble. Par exemple, quand vous êtes angoissé, vous n'avez pas de goût. Même dans la bouche. Quand vous êtes malade, vous n'avez pas de goût. D'accord? Pas seulement quand vous avez une débouchée. Quand vous ne voyez pas ce que vous mangez, vous n'avez pas de goût. C'est-à-dire que le goût et le psychique, ça va beaucoup ensemble. C'est très très puissant. Dès qu'ils attrapent le ballon, ils arrêtent. Hein. Ouais. Donc le goût et le psychique, ça va beaucoup ensemble. Maintenant, le goût, il rappelle quelque chose. Par exemple, chacun, il aime le manger de sa mère. Bien que des fois, il y a certaines daffinas qui sont proches de l'homicide volontaire. Pour les enfants, il y a une ségoula, ils peuvent supporter, je pense que c'est génétique, mais d'autres personnes, c'est vraiment en danger. Pourquoi tout le monde aime le manger de sa mère? Parce qu'il retrouve sa maman à l'intérieur. C'est presque du cannibalisme. Oui, chacun il retrouve sa mère. Chaque goût, chaque personne, elle a une manière de cuisiner. Pas à cause des ingrédients qu'elle met dedans, mais à cause de l'investissement. Maintenant, les gens qui mettent leur goût à l'intérieur, d'ailleurs ils prennent goût à ce qu'ils font, eh ben ils donnent du goût. Les gens qui prennent pas de goût à ce qu'ils font, il n'y a pas de goût. Par exemple, des fois, c'est insipide. Il n'y a pas de goût. Tu regardes la tête de la personne, tu dis, oui, c'est vrai. Tu sens, tu as l'impression d'avoir un rouleau de moquette devant toi. Tu t'investis pas. Tu t'investis pas. Il n'y a rien. Le goût, c'est représentatif des choses. Donc, il faut s'imaginer qu'au moment où toi, tu vas manger la matzah, le goût, il va participer à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que puisque tu vas manger exactement la même chose que ce qu'ils ont mangé eux, d'accord? Donc, au moment où le goût de la matzah, il va traverser ta bouche, t'es en Égypte. Je sais pas si vous me suivez. D'accord? C'est comme si toi, tu vas voir un film sur la Bretagne et qu'il y a un type qui t'attend avec un seau d'eau. Puis comment c'est la mer? Humide. D'accord? Donc ça veut dire que le goût, la saveur, elle fait partie. D'ailleurs, c'est marqué Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez et voyez qu'Hashem est bon. C'est-à-dire quoi, goûter et voyez qu'Hashem est bon? On va goûter. C'est fatigant. David, c'est fatigant. Donc, goûter et voyez qu'Hashem est bon. C'est-à-dire quoi, goûter? Goûter, encore une fois, à chaque fois que la Torah, elle parle de contact, c'est qu'il y a quelque chose qui passe. Tu touches, il y a un contact. Tu t'investis, il y a un contact. Tu fais corps avec la chose, il y a un contact. Donc tu manges, il y a un contact. Il y a des goûts qui sont spécifiques. D'accord? Chacun dans son, selon ses origines. Il y a un plat qui est spécifique. Il y a des odeurs dans la cuisine. Ça sent le céleri, tu dis, ah, Pessard. Chaque endroit, chaque situation. Pourquoi? Parce que ça fait partie. Maintenant, ça commence, ils ont commencé un petit peu à faire ça aussi, les goïms dans la pub. Oui, ils font des petits vaporisateurs. Chaque pub, hop, ils t'envoient un parfum. Ça commence. C'est que le début. Ils essayent sur Internet aussi. Ouais. Ça va se faire aussi bientôt. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le parfum et le goût, ils font partie, en fin de compte, d'un certain témoignage. Je sais pas si vous avez déjà arrivé. Vous sentez une odeur et d'un seul coup, vous vous retrouvez ailleurs. C'est très bizarre. Une fois, j'étais à la campagne en vélo. Ça dure pas longtemps. Je coupe une rue. Puis d'un seul coup, je vois la maternelle. Mais la maternelle, moi, je m'en rappelais plus de la maternelle. La maternelle rue Ticton dans le deuxième. On va se rappeler à 3 ans et demi ou à 4 ans, quoi. Pourquoi? Parce que dans cette rue-là, il y avait un lavoir. Et dans le lavoir, il y avait une odeur de lavabo. Et l'odeur de lavabo, c'était l'odeur de l'entrée de la maternelle. Maintenant, en 3 secondes, d'un seul coup, tu vois la maternelle. Tu dis, mais attends, il fallait réfléchir. Moi, je me rappelais même plus de la maternelle. Mais la maternelle, elle est enregistrée sous forme de... Comme tu mets un code dans ton ordinateur, tu retrouves une image. Tu mets un code, tu retrouves un fichier. Tu mets un parfum, tu retrouves une situation. Chaque parfum, et le parfum, tu peux pas le tromper. Chaque parfum, chaque goût, il participe de quelque chose. Les Chachamim, ils disent le goût, il fait partie du récit de la sortie d'Égypte. Tu manges, il y a une mitzvah min haTorah le soir de Pessah de manger la matzah. Donc quand tu vas manger la matzah, automatiquement le goût de la matzah, il participe. Tu manges ce que eux ils mangeaient. Donc ça va te rappeler quelque chose. Après tu manges le maror. Le maror, il est amer. Maintenant toi tu dis pourquoi est-ce qu'on doit manger le maror? Vous savez que c'est pas évident, il y a beaucoup de sortes de maror. Aujourd'hui on a du mal et tout parce que on trouve pas vraiment du maror amer. Parce que vous savez que le maror, il a été choisi pour son amertume. Maintenant, il y a eu tellement de comment ça s'appelle, de greffes et tout ça. Ils ont tellement travaillé, les agriculteurs, les pauvres, pour nous faire une salade qui est douce, qu'on trouve plus des salades amères. D'accord? À part les salades de ta mère, mais ça, c'est, ouais. Donc, c'est pas évident. Alors, il y en a qui prennent du réfort. On trouve un système. Maintenant, quel est le but de sentir la mer? Parce que la mer, il va te rappeler l'amertume d'Égypte. C'est que les Chachamim, ils ont pensé que quelqu'un qui va réfléchir à qu'est-ce que c'était l'esclavage, ça lui suffit pas les images. Parce que vous savez que l'esclavage d'Égypte, c'était pire que les camps de la mort. C'est pas, vous croyez, rien qu'ils étaient au travail forcé, fallait fabriquer des briques. Non, 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 c'était très, très grave. Le travail des hommes, on le donnait aux femmes. D'accord? Les femmes, elles devaient soulever des grandes pierres. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'ils meurent, c'est pas qu'ils fabriquent quelque chose. Le travail des hommes baraqués comme ça, on le donnait. Le travail des femmes, il fallait trier des aiguilles, on donnait à des hommes pour qu'ils deviennent fous de nerfs. D'accord? On les faisait travailler toute la journée et la nuit, ils étaient au service des Égyptiens. Quand ils partaient au travail, on abusait de leurs femmes. C'était une folie. Quand il manquait des briques, on mettait les enfants à la place. On ne sait pas ce que c'est l'esclavage. C'était très très grave. Donc tu as une amertume dans le cœur. Et puis c'est pas une amertume genre oh, j'ai eu 2 heures d'embouteillage. Oh, j'ai eu la jambe cassée. Non, c'est un type, il est né esclave, il est mort esclave. Pour lui, l'amertume, c'est sa vie, quoi. Maintenant, toi, il faut que t'essayes en 2 heures de ressentir l'amertume d'Égypte. Alors, les Chachamim disent, on va t'aider. Tu vas manger quelque chose d'amer. Et puisque le goût, il a un impact sur le psychique, donc l'amertume, elle va t'aider, quelque part, à aller chercher dans ton subconscient qu'est-ce que ça veut dire l'amer pour toi. Or, de la même manière qu'un problème amer, il te laisse un goût amer. Ça, vous faites une mauvaise rencontre. ou vous avez une grave déception, ou vous ratez un examen, vous avez un goût amer dans la bouche. Bah, le goût amer, au lieu d'attendre qu'il vienne, alors les chamim te disent on va le provoquer. À toi maintenant de profiter, entre guillemets, de ce conditionnement chimique pour essayer de ressentir ce qu'ils ont pu vivre là-bas comme amertume. Mais sûr que tu ne seras même pas à 0,02% de l'amertume réelle. Même quand les gens ils te racontent à Auschwitz, t'es à 0,002%. Puisque eux, ils y vont, il reste plus rien, il y a que de l'herbe avec un mirador et ils n'arrêtent pas de pleurer. Alors imagine, quand tu étais là-bas, sur place, en temps réel, d'accord, au 20e siècle, avec des chiens et des gens qui tuaient des gens et des têtes qui éclataient comme ça pour rien. C'est quelle amertume. Mais quand même, les Chachamim, ils ont dit par le goût, tu peux essayer de participer quelque part. Mais non, c'est pas seulement le goût qui doit participer, c'est même la vision. Vous savez que quand on raconte la Haggadah, on doit montrer le Maror, on doit montrer la Matzah, on doit montrer le Korban Pessah. Vous savez, Matcha Joe. C'est une Matzah américaine. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que la vue, elle participe. Vous avez remarqué un truc bizarre. Dans la Torah, il n'y a pas d'image. Tout le Talmud, il n'y a pas d'image. Il y a un ou petit deux croquis comme ça, un peu dans Rosh Hashanah, un peu dans Menachot, mais presque rien. Mais il n'y a pas d'image. Pourquoi il n'y a pas d'image? Dans le Midrash, il n'y a pas d'image. Toujours les gens ils viennent et me disent « Monsieur Ben Chetrit, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un nouveau CD-ROM qui est sorti sur la vie d'Abraham Avinu. Il y a un livre d'enfants. Il y a une bande dessinée sur la Torah. » Je ne suis pas tellement pour. Pourquoi? Ils me disent « Mais pourquoi? C'est bien, c'est ludique. » Moi, je suis pas d'accord. Parce que le problème avec l'image, c'est qu'elle bloque l'imagination. Or, chacun, il a une approche différente dans la Torah. Maintenant, si toi, on t'impose une image, tu peux pas voir autre chose. Par exemple, Cécile B2000, il a été beaucoup inspiré par le Yetzer Hara. Parce qu'à cause de ça, il y a des millions de juifs qui sont convaincus que, par exemple, que la mer, elle s'est ouverte en 1, alors qu'en vérité, elle s'est ouverte en 12. Maintenant, il te dit, mais je peux pas, je l'ai vu de mes yeux. D'accord? Moshe Rabbeinu, il avait pas la kippa. Tu dis, bah, écoutez, moi, j'ai pas la kippa, je peux pas être plus que Moshe. En plus, il a les cheveux en arrière. Tu lui dis, oh, tu te prends pour Cécile. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image, elle est tellement forte qu'elle crée un impact qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche de te sensibiliser réellement. Donc, la Torah, il n'y a pas d'image. C'est à toi d'imaginer ta vision des choses. Maintenant, toi, tu l'as vu comme ça, l'autre, il l'a vu comme ça, l'autre, il l'a vu autrement. Chacun, il a une perception différente. Là, le contraire, la Matzah, on veut que tu vois. Le Maror, on veut que tu vois. L'image, elle fait aussi partie de l'impact. Pourquoi? Parce qu'elle est délimitée. Mais c'est quoi un symbole? Tu vois un symbole. Mais ce que ça va représenter pour toi, ça n'a rien à voir. Toi, tu parles de l'esclavage, mais tu n'as pas connu l'esclavage. L'autre, il a connu l'esclavage. Vous comprenez? Je sais pas, quelqu'un en 1800 et quelques en Russie et qui a des pogroms tous les 3 mois et il dit l'année prochaine à Jérusalem. Pour lui, ça n'a pas le même sens. Alors que toi, tu dis la semaine prochaine à Ashkelon. C'est pas pareil. Je comprends. C'est pas pareil. Tu prends l'avion, tu y vas. Il y a des types, ils sont morts en rêvant d'aller en Israël. Toi, tu prends le billet, tu dis c'est quoi le problème? C'est une question d'euros. Il pleut, ah, j'irai pas. Eux, ils allaient à plat ventre. Toi, tu dis je vais aller en avion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les choses, elles perdent leur sens à partir du moment où elles ont perdu leur pouvoir d'image. C'est pareil. Avant, les gens, ils achetaient un petit bout de terre d'Israël. Ils avaient une petite bouteille avec une terre d'Israël. C'était extraordinaire. D'accord? Je me rappelle avant, je pense, 60, quel âge moi j'avais? Les gens, ils arrivaient, ils descendaient de l'avion, ils embrassaient le parterre. Bah, qui c'est qui fait ça? Ben Gurion, tu embrasses le parterre. Ils embrassaient le parterre, les gens, je me rappelle. Bon, maintenant, ils applaudissent quand ça atterrit. Bon. Ça reste encore un petit peu ça. Mais de moins en moins. Pas sur Air France, sur Elal. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vois? La vision, elle participe. Le goût, il participe. Le parfum, il participe. Regardez, on mange le charoset. C'est ce que c'est le charoset. Ça représente l'argile. Ça représente le mortier avec lequel il fabriquait. Mais, en vérité, même à l'intérieur, si vous regardez là-bas, c'est un Tosfot dans Psachim. Là-bas, on explique. Au niveau de la couleur, ça ressemble à l'argile. D'accord? Maintenant, au niveau du goût, on dit qu'on doit mettre des pommes à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre des pommes? Parce qu'une pomme, elle a une caractéristique un peu spéciale. C'est que quand vous mordez dedans, d'abord, elle est acide. Et ensuite, elle est douce. D'accord? Exactement pareil comme la sortie d'Égypte. que la sortie d'Égypte, c'était une grave douleur au départ. Et ensuite, ça s'est changé en délivrance. Comme dans la vie. Vous savez, on dit toujours après la pluie, vient le beau temps. J'ai jamais compris pourquoi les gens ils s'angoissent. Pourquoi tu t'angoisses? Parce qu'il fait moche. Mais de toute façon, s'il pleut, c'est qu'il va faire beau demain. La mort, elle garantit la naissance. L'échec, il garantit la réussite. Le plus bas, il garantit que tu vas rebondir. Parce qu'il y a un moment, tu vas rebondir. Quand tu arrives au fond, tu rebondis. Donc quand tu as un problème, en vérité, ça signifie qu'il va être suivi d'un bonheur. Tu devrais être content. Donc pourquoi les gens ils se plaignent quand il y a un problème? Ils devraient se plaindre quand il y a un bonheur. Parce qu'après le beau temps. C'est bizarre, hein? Exactement pareil. Tu croques d'abord dans la pomme. D'abord, c'est acide. Comme dans tout. Tu dis, c'était acide les études que j'ai faites. C'était acide pendant 10 ans. Bah, au Hachem, je gagne 50 000 par mois. C'est doux. C'était acide. Je me suis pas remarié avec la première. J'ai bien réfléchi, j'ai bien fait attention. La quatrième, c'était ça. Je me suis marié. Je me suis pas... C'est acide. C'est toujours pareil. C'est acide et doux après. Tu fais les efforts d'abord. Après, tu récoltes les fruits. Il y a des gens, non. Ils veulent le doux maintenant. Alors, c'est doux maintenant. J'étais fou amoureux. Je me suis marié sur un coup de tête. Elle m'a flashé. J'ai flashé. On a flashé. Mais après, quand on a éteint la lumière... Voilà. Oui, c'était les flashs. J'ai découvert son vrai visage. Depuis que je la connais, j'ai des acidités. C'est marqué dans la gada. L'acide, c'est d'abord, c'est pas après. C'est pas grave, il faut de l'acidité. Toujours les gens me disent, oh, vous savez, moi j'ai eu une adolescence heureuse. Non, je veux bien que tu aies une enfance heureuse, mais tu peux pas avoir une adolescence heureuse. Parce que si tu as une adolescence heureuse, alors tu vas avoir un adulte malheureux. Parce que quand est-ce que tu vas faire ta crise d'adolescence? Faut bien la faire un jour. Alors je préfère que tu la fasses entre 16 et 21 ans, ou la 14 et 18. Parce que sinon, je sais ce qui va se passer. Tu vas me téléphoner à 38 ans, tu vas me dire j'ai envie de changer de vie. Le virage de la quarantaine ou de la cinquantaine. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être apprécié, mon mari me connaît pas ma vraie valeur. Je vais la montrer à tous, ma valeur. Tu fais ta crise d'adolescence maintenant? Maintenant tu fais ça? T'as quatre enfants, tu décolles? Eh oh, oh, tu reviens là? J'ai pas le droit de vivre. Fais-le quand t'es jeune. Les enfants, ils doivent rêver. Les adultes, ils doivent assumer. Et les adolescents, ils doivent se déchirer. Déchirer. Qui c'est qui a fait mai 68? Je crois que c'est quoi les vieux? C'est la déchirure. Quand est-ce que t'écris des poèmes? À 19. Quand est-ce que t'as envie de refaire le monde? À 18. Quand t'as envie de racheter Ron Poulenc? À 14. Vous comprenez? Pas à 28 ans comme ça. Oh, je suis sûr, je suis sûr. Ça, c'est une autre maladie. Ça s'appelle la Société Française des Jeux. Ça peut se soigner. C'est une thérapie lente. Petit à petit. Si tu arrêtes de gratter, peut-être que tu vas t'en sortir. C'est-à-dire quoi? Il y a de l'acidité d'abord, et ensuite c'est doux. Donc quand tu manges le charoset, tu dois penser à ça. Après, on dit, on met des épices à l'intérieur. Les épices, elles doivent rappeler la paille avec laquelle on faisait les briques. Regarde un petit peu jusqu'où ils ont été chercher la symbolique, les chachamim. Après, tu dois mettre du vin à l'intérieur du charoset. Pourquoi? Parce que le vin, il doit rappeler le sang. C'est-à-dire que le mortier, il baigne dans le sang des béné Israël. Il faut que tu ressentes ce qui se passe. Il faut savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est quoi? C'est ce que tu vas voir, c'est ce que tu vas sentir, c'est ce que tu vas goûter. Tout ça, pourquoi faire? Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Pour que tu arrives à la partie principale, qui est le moment où on fait le Hallel. Le Hallel, vous avez une partie, on l'a fait avant le repas, une partie, on fait après le repas. C'est quoi le Hallel? C'est un chant de reconnaissance à Hachem pour tout le bienfait qu'il nous a fait. Maintenant, écoutez-moi bien, ça ne veut rien dire de faire le Hallel. Si t'as pas compris qu'Hachem, il t'a aidé dans quelque chose, il t'a sauvé de quelque chose. Vous avez jamais vu quelqu'un qui vous dit, vous savez, mon bébé était très malade. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Ils m'appellent, ils me disent, écoutez, mon fils était très malade. Pas au Hachem, il s'en est sorti. Est-ce que j'ai le droit de faire le Hallel? Le type, pourquoi il a envie de faire le Hallel? Parce que son fils était malade. T'as échappé à quelque chose de grave. T'as envie de glorifier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le but de la Haggadah, c'est quoi? C'est est-ce qu'à la finale, tu vas être capable de glorifier Hachem? Mais pourquoi tu vas le glorifier si t'as pas senti le problème? Si toi tu trouves normal d'être normal, et normal d'être riche, et normal d'être intelligent, et normal d'être marié, et tout est normal. Alors si tout est normal, comment tu veux faire le halal? Et ça, c'est un truc incroyable. Les gens, ils pleurent et ils se révoltent quand quelque chose n'est pas normal. Vous savez, mon fils est malade. Pourquoi? J'ai perdu mon père. Pourquoi? C'est un truc que j'ai jamais pigé, moi. J'ai jamais pigé ça. Si quelqu'un m'explique la normalité, moi, je peux lui expliquer la normalité, ce qui n'est pas normal. Mais s'il refuse ce qui n'est pas normal, comment il peut accepter ce qui est normal? Mais rien n'est normal. Rien. Vous comprenez? Les gens disent, oh, j'ai mal aux dents. Bon, tu sais, il y en a qui ont le cancer. Il y en a qui ont le cancer. Viens avec moi, on va aller avec les juifs, on va aller les voir. Vas-y, va voir. Maintenant, tu as le droit de te plaindre? Oh, mais alors si c'est comme ça, on peut plus se plaindre. Eh ben alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Te plains pas. Et si je veux dire, eh ben, et si j'ai envie de me plaindre, hein? Mon psy m'a dit, plaignez-vous. Mais j'ai pas envie de me plaindre. J'ai envie que tout aille bien. Et j'ai une pêche du tonnerre et il n'y a pas de problème. Et s'il y a un problème, c'est un micron, 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 micron de seconde, le temps de rebondir et de repartir. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Regardez le film dit triple saut. Vous vous rappelez ça ou non? Il faut réviser. Le triple saut, c'est un saut en athlétisme. C'est un type qui saute 17 mètres. D'accord? Donc, il pousse son pied d'appel, il touche, il ressaute encore, il touche, et il ressaute et il atterrit. Maintenant, vous savez combien de temps il reste dans le deuxième et dans le troisième saut? Rien. À peine s'il effleure le sol. Pied d'appel et il rebondit. Pied d'appel et il rebondit. La culpabilité, l'angoisse, la tristesse, la prise de conscience, c'est ça. C'est pied d'appel, rebondit. C'est tout. C'est pas je m'assois dedans, je pleure, je crée un monument aux morts. Non, tu rebondis. Tout de suite, t'as compris? Décolle. Décolle! Et pas comme si tu t'assois, et sur ta douleur, et sur ton problème, et ta tristesse. C'est vrai que t'as des problèmes. T'as compris? Décolle! T'as un problème, t'as une solution. Oh, c'est trop facile. Regarde, les gens, ils aiment les malheurs. Ils aiment. Ils aiment les victimes, ils aiment les commémorations, ils aiment les drapeaux, ils aiment les Kleenex. Je dis, bon, t'es pas rassasié, t'as déjà raconté à 14 personnes tes malheurs, ça te suffit pas? Il dit, non, il me faut bien une trentaine. Quand j'ai 30 personnes qui pensent que je suis malheureux, alors c'est bien, je me sens mieux. Ça m'a fait du bien de vous parler. Eh ben, c'est pas réciproque. Ah, il m'a dit une fois. Et vous, à qui vous parlez, vous? Moi, je vomis, moi, ça me suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il peut arriver à comprendre que la négation, elle n'a pas lieu d'être, sinon pour réagir. Exactement pareil. Tout l'intérêt de la Haggadah, c'est quoi? C'est le Hallel qu'on va faire à la fin. Maintenant, pourquoi est-ce que les Chachamim, ils n'ont pas commencé directement en disant, bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire le Hallel! On va faire des louanges à Hachem! Parce que tu peux pas louer, tu peux pas remercier, si tu sens pas que tu dois quelque chose. Tu vas remercier qui? Tu vas remercier quoi? Donc d'abord, tu comprends que t'es en Égypte. Après, tu comprends les souffrances de l'Égypte. Après, tu comprends qu'Hachem t'a sorti de là-bas. Et après, tu dis merci. Mais sinon, dire merci, ça veut rien dire. C'est pareil. Un homme, tous les jours, il doit dire merci à sa femme. Tous les jours, une femme, elle doit dire merci à son mari. Tous les jours, un homme, il doit dire merci à ses parents. Tu dois aller voir tes parents, en moyenne, 2 ou 3 fois par semaine. Et tu dois les appeler tous les jours et leur dire merci. C'est pas l'archouma que ta mère, elle te dit, oh, merci mon fils pour le coup de fil. Comment pour le coup de fil, merci? Mais c'est le minimum, un coup de fil. Les gens disent, ah, j'ai pas le temps, je suis occupé, je travaille. Comment tu travailles? Mais Charlot, quand t'es né, si elle avait dit, je suis occupé. Imagine-toi. Oh, pendant 10 jours, j'étais occupé, je l'ai pas changé la couche. Mais le médecin, il va tuer la mère. Le pédiatre, il va la tuer. J'étais occupé. Tu sais comment c'est? Faire le repas, faire la lessive. J'ai oublié de changer la couche. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, pourquoi t'appelles pas ta mère? Pourquoi t'appelles pas ton père? Ah, écoute, il m'a contrarié. Pourquoi tu l'as contrarié? Combien de fois, toi? Mais tu l'as même pas fait plaisir depuis que t'es né! T'es une ramma vivante! Tu dis, il m'a contrarié! Ouais, moi, de toute façon, moi, je me laisse pas faire! Tu sais, je me laisse pas faire, mais... Ferme-la un peu! Quoi, alors, il faut s'écraser, il faut... Mais on parle de tes parents maintenant. On parle pas du docteur Mengele, on parle de tes parents. Les plus grandes erreurs qu'ils ont pu faire, ils les ont fait par amour. Parce qu'ils sont incompétents, ils savaient pas, ils étaient pas formés. Aujourd'hui, il y a la pédagogie, il y a Dolto, mais avant, il y avait quoi? Il y avait la Treha et la Torah, c'est tout. Ils savaient pas. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu. T'as dit non, je vais leur faire payer. Mais t'es malade. Tu dois le matin jusqu'au soir, tu dois dire merci. Une fois, quelqu'un m'a demandé ça. Il m'a dit, pourquoi les enfants sont ingrats? Même les maigres. Je dis, pourquoi? J'ai dit, les enfants sont ingrats. Parce que si Dieu, il les avait rendus, il leur avait donné la gratitude, ils auraient été tellement paralysés par leur devoir de reconnaissance qu'ils auraient été incapables d'exister pour eux, ils auraient entièrement existé pour les enfants, pour les parents. Or, comme Dieu, il veut que les enfants, ils avancent, donc il les a rendus ingrats. Maintenant, quand est-ce que les enfants, ils se rendent compte de ce qu'ils doivent à leurs parents? Le jour où ils n'ont plus l'occasion de leur rendre. Donc, c'est obligé de s'occuper d'eux. C'est grave, hein? Je parle pas des parents qui ont fait des enfants en tant que troisième jambe. Ou là pour les allocs, ou là pour s'occuper d'eux, pour leurs vieux jours, ou pour compenser la retraite. Ils appellent ça la retraite complémentaire. Comment mon fils, tu m'as quitté? Comment tu es parti avec une étrangère? Eh, maman, il fallait bien que je me marie. Judas. Même la belle-fille, la pauvre, elle a crucifié et elle s'est fait avoir. Si ça veut dire une chose simple, ça veut dire que les parents, ils donnent beaucoup aux enfants. Les enfants, ils reçoivent beaucoup. Tu dois être capable de dire merci. Si tu dis merci à tes parents, comment tu vas dire merci à Hachem? Maintenant, si tu trouves tout normal, tu diras jamais merci dans ta vie. Maintenant, la grandeur de quelqu'un, on la reconnaît dans sa capacité à dire merci. Parce que le remerciement, c'est le lien que tu crées avec l'autre. Mais si tu trouves ça normal, ou tu penses que c'est un devoir, ou un dû, alors il n'y a plus de remerciement, donc il n'y a pas de lien. T'as ta vie, j'ai la mienne. Après, tu t'étonnes que tu perds le moral. On est liés, c'est bien, on est liés. C'est bien qu'il y en ait besoin, qu'il y en a qui ont besoin, et il y en a qui donnent, c'est bien. C'est bien, ça crée des liens. Mais si on n'a pas besoin, alors il n'y a pas de lien. Tu pourras faire le Hallel seulement quand tu auras compris tout le bienfait qu'Hachem t'a fait en te sortant d'Égypte. Si tu l'as pas compris, tu peux pas faire le Hallel. Alors si c'est comme ça, c'est marqué dans la Mishnah Davkuf Tetzain Amud Bet dans Psachim Bechol Dor Vador, à chaque génération Chayav Adam Lirot Et Atzmo Keilu Uyatsa Mimitzrayim. Donc chaque génération, un homme est obligé Lirot et Atzmo, de se voir lui-même, Keilu ou Yatsam Mitzrayim, comme s'il était sorti d'Égypte. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Maintenant, nous, on a un problème. Si on dit que le principe de la soirée de la sortie d'Égypte, c'est seulement pour raconter la sortie d'Égypte. Vous savez, on va prendre des enfants. Il y a des enfants, je vais raconter une histoire. Je vous raconte le petit poussé. Je vous raconte le chaperon rouge. Et ce soir, je vous raconte la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi c'est marqué que quelqu'un, il doit sentir comme si lui-même sortait d'Égypte? Mais moi, je suis pas sorti d'Égypte. J'ai même pas visité l'Égypte. Alors, comment je vais faire comme si j'étais sorti d'Égypte? D'accord? Donc, c'est pas commémoratif. Deuxièmement, pourquoi c'est marqué Chayav? C'est le Chayav. Chayav, c'est-à-dire un homme, il est obligé. T'es obligé de mettre tes filines. T'es obligé de manger kasher. T'es obligé de faire Shabbat. T'es Chayav. Je fais ce que je veux. T'es libre. Mais sûr que t'es libre. T'es obligé de payer les impôts. T'es libre. Tu les payes pas. Tu vas payer autrement. T'es obligé de faire attention quand tu traverses la rue. Tu dis non, je suis pas obligé. T'es obligé, quand tu prends le téléski, de regarder où tu t'assois. Non. Comment c'était le ski? Ben écoute, j'étais 2 mois... À l'hôpital de Courchevel, 6 mois en rééducation aux Arcs. Ça t'a plu le ski? Ah bah oui, je suis parti pour 10 jours, j'ai fait 6 mois. T'as pas regardé où tu t'assois? T'es obligé de t'asseoir. T'es obligé d'être intelligent, t'es obligé d'être mature. Non, je suis pas obligé. Ça va, mais te force pas non plus à être immature. C'est marqué ici, Chayav, un homme est obligé de se voir comme s'il sortait d'Égypte. Mais comment tu veux qu'il s'oblige à voir? Il sent rien. Alors ça, c'est la Mishnah. Le Rambam, Maïmonide, quand il reprend dans les halakhot, il change un peu les mots, mais d'un autre côté, il apporte des nuances qui approfondissent le sujet. C'est marqué Bechol dans Vador, donc dans chaque génération, toujours le même langage. Chaya Vadam, un homme est obligé. Attention, Le'arot et Atzmo. L'irot, ça veut dire de se voir lui-même. Mais Le'arot et Atzmo, ça veut dire, si on traduit littéralement, pour ceux qui ont fait l'Ulpan, ils comprennent, pour, de se montrer à lui-même. Déjà, c'est un peu compliqué. Par exemple, toi, quand toi, tu comprends pas quelque chose, par exemple, alors tu te montres. Tu peux expliquer à quelqu'un, il est pas en fait. Tu dis, bon, je vais te mimer la scène. Maintenant, quand toi, tu comprends pas, tu te mets de l'autre côté et tu te montres à toi-même. Comment je vais faire pour me montrer à moi-même? C'est marqué. Les arot et atzmo, de se montrer à lui-même. Keilou, comme si. Ah, il n'y a pas écrit ça dans le Mishnah. Mais il y a écrit. Ah, si, c'est marqué Keilou. Bon. Ah, il y en a qui suivent. Ou, ah, ça c'est marqué ou, après c'est marqué Beatsmo, ah, ça c'est pas marqué. Comme si lui-même, ce qu'on appelle une redondance, d'accord? C'est pour confirmer quelque chose. C'est comme les gens ils disent, la vérité, la vraie. Comme s'il y avait la fausse. Je sais pas, j'ai jamais compris. Bon, c'est pas grave. Keilu ou Beatsmo, comme si lui, par lui-même ou lui-même, Yatsa, il est sorti, Rata, maintenant. Ah! Comment il est sorti maintenant? Il n'est pas sorti d'Égypte, il habite à Belleville. Bon, c'est pas loin d'Égypte. Bon. Attends. Mishirvud Mitzrayim. Oui. De l'esclavage d'Égypte. Mais dans la Gemara, il n'y a pas marqué l'esclavage dans la Mishnah. Il y a écrit d'Égypte. Mais Mitzrayim. Et là, c'est marqué Mishirvud Mitzrayim. Donc, comment est-ce que le Rambam, il s'est permis de changer le texte à ce point-là? D'accord? De dire comme si lui-même était sorti, comme si maintenant de l'esclavage d'Égypte. Et qu'est-ce que ça veut dire Hayav? On n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un il est obligé? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre une autre Gemara. C'est marqué dans Gemara dans Megillah Daf Yud Dalet, Amud Alef. Gedola Asarat Atabarat Yoter Mimemchet Neviim Vezain Neviot Shenit Navu LeYisrael. Shekolam Lo Irziram LeMutav VeIlu Asarat Atabarat Irziram LeMutav. Il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses en Israël. D'accord? Mais les béné Israël n'ont pas fait Teshuvah. Et les prophètes qu'on avait, c'était pas des rigolos. Ishaya, tu sais, des gens qui faisaient revivre les morts. Mais quand même les béné Israël, ils ont dit oui, oui, bon, c'est bien, bon, mais bon, on va pas arrêter d'aller au Palladium. Ils ont pas arrêté. Par contre, Asarat, Atabarat, quand l'enlèvement de la bague, c'est quoi l'enlèvement de la bague? Pourquoi? Parce que c'est marqué, vous l'avez vu cette année à Purim, quand Aman, il a été voir Achashverosh, il lui a dit voilà, je veux détruire les béné Israël. Maintenant, pour donner les pleins pouvoirs à Aman, pour pouvoir accomplir son décret mortel, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi, il a enlevé la bague. Maintenant, le fait d'enlever la bague, ça veut dire qu'avec cette bague, le roi, il peut signer les décrets. Enfin, Aman, il peut faire signer les décrets. Il peut mettre son cachet. Et tous les décrets, ils sont valables à partir de maintenant. Comment s'appelle ça? Asarat Atabarat. Il dit, quand les béné Israël, ils ont écouté 48 prophètes, ça leur a pas fait d'effet. Quand ils ont entendu 7 prophétesses, ça leur a pas fait d'effet. Mais quand ils ont vu que Aman, il a enlevé la bague, il a reçu la bague, ils ont fait teshuva. C'est pareil. En 39-45, il y a eu des massacres. Mais 10 ans avant, le Hafetz Chaim, il a dit, dans 10 ans, il va y avoir des massacres des millions de juifs. Les gens, ils ont pas écouté. Il dit, allez, arrête, prophète de malheur. Quand la réforme en Allemagne, les juifs réformistes, quand les juifs réformistes en 1800 et quelques, ils ont sorti des nouvelles lois, ils ont dit, maintenant, on va faire le Shabbat dimanche, on va faire chanter les femmes dans la synagogue, on va faire des femmes rabbins. Quand ils ont sorti ces lois, vous savez ce qu'il a dit un grand rabbin, je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est le Rougatchover, c'est-à-dire c'est en 1800 et quelques. Il a dit, vous, en Allemagne, vous avez créé des nouvelles lois pour le judaïsme. Il a dit, et les Allemands, ils vont créer des nouvelles lois pour les juifs. Il a dit comme ça, ils vont faire un Shulchan Aruch spécial pour les juifs. Ce qu'on appelle les lois anti-juives. Et c'était quand? C'était en 1800 et quelques. Ça veut dire quoi? Dans toutes les générations, on a des prophètes. On a des gens qui voient ce qui va se passer. Mais, on dort. Mais quand il a enlevé la bague, les gens, ils ont dit, c'est vrai que Aman, il a reçu la bague. Alors là, ils ont attrapé une grave maladie qui s'appelle Khuf. Je sais pas si vous connaissez cette maladie. Ils ont eu peur. Ah, ils sont réveillés. Ah, ils sont réveillés. Ça veut dire quoi? Malheureusement, on peut parler, on peut prévenir, on peut prouver, on peut amener des textes. Laisse-moi tranquille. Mais quand il y a une vitrine qui explose, ou un visage qui éclate, les gens d'un seul coup, ils se rappellent de ce que les rabbins ils leur ont dit pendant des années. Ce qui est marqué ici dans la Gemara. L'impact de la réalité, il est 100 fois plus fort que l'impact de la conscience. Et pourtant, nous, on souhaite à personne que Dieu lui explique clairement ses intentions. J'ai déjà expliqué. Il y a un enfant, il est devant la vitre du four. Tout le monde sait que la vitre du four, elle est brûlante. Maintenant, pour l'enfant, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau culturel. Sa mère lui dit « Attention, mon fils, ça brûle. » Qu'est-ce qu'il fait le fils? Dès que la mère se tourne. D'accord. Il y a le deuxième niveau, l'enfant qui met la main sur la vitre. Il a compris au 4e degré que ça brûle. C'est clair, il emporte les marques. Mais moi j'ai une question. Le niveau intermédiaire, le type qui fait pas confiance à sa mère et qui approche la main, mais il n'a pas encore touché. Mais avant de toucher, il sent que ça brûle. Oui? Alors pourquoi il met la main? C'est pareil. Ton père, il te dit, tu sais, mon fils, ne va pas traîner dans des endroits comme ça. Ils vont t'entraîner à faire des bêtises. Ils vont te... Il dit, arrête, papa, t'es vieux jeu, t'as rien pigé. Tu me considères comme un gamin, tu crois que je suis pas capable. Bon, il écoute pas son père. Il va là-bas. Il fait tout noir. Il y a une musique de fou. Tout le monde est excité. Il voit des petites capsules bleues qui se baladent de partout. Et le premier verre de coca, il a pas le goût du coca. Et lui, c'est un spécialiste du coca. Donc, il voit bien qu'il y a un malaise. Vous comprenez? Quand on est en une ambiance pure, une ambiance sympathique, une ambiance ouverte, on n'a pas besoin d'éteindre la lumière. On n'a pas besoin de la musique à fond, t'as pas besoin de t'exciter, t'as pas besoin de prendre des capsules, t'es heureux. Ouais, pourquoi t'as besoin de t'extasier? Je sais pas. Donc, tu sens bien que là, ton père, il parlait pas de n'importe quoi. Bon, lui, il le faisait avec de la bière, maintenant toi, tu le fais avec un cachet. Bon, mais quelle différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, t'es devant la vitre, là. Tu sens la chaleur du four. Ben, dégage d'ici. Je peux pas, je vais pas rentrer en métro. C'est pas grave, tu vas rentrer en civière. Ils sont fous, les mecs. Ils sont malades. Vous comprenez ou non? T'as bien senti que le coca, il avait un drôle de goût, non? C'est pourquoi? La première dose, elle est toujours gratuite. La première. C'est la deuxième qui est payante. Mais la première, elle est gratuite. Donc la vitre, elle est chaude. T'as pas confiance dans ta mère. T'as pas confiance dans la Torah, t'as pas confiance dans les rabbins. Mais la vitre, elle est chaude. T'as pas besoin de mettre ta main. T'as pas besoin de te brûler. Non, il dit non, il faut que je la touche. Incroyable. Exactement pareil. On prévient, on parle, on explique, on montre, on démontre, on prouve, on traloudouve. Oui, oui, ça va. Combien tu répètes? Combien? Après, elle vient, elle te dit, écoutez, monsieur Larma, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, une Brit Mila. Je sais ce que vous allez me dire, j'aurais pas dû. J'étais pendant 2 ans, je venais au cours du mardi, je sais. Vous êtes prévenu plein de fois et tout ça, mais bon, j'ai craqué, puis il m'a dit qu'il m'aimait, puis il m'a dit je vais te le prouver, puis. Bon. Je lui dis, il a transformé l'essai. Oui, il a transformé l'essai. Et voilà, et le ballon. Et il est parti prouver ailleurs qu'il aimait aussi. C'est des gens qui aiment beaucoup, qui ont beaucoup d'amour. C'est quoi? C'est que l'impact, il est dans la réalité des choses. L'impact, il n'est pas dans la culture. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vous souhaite de jamais attraper la maladie de la culture. Il faut vivre ce que vous pensez. C'est pas la peine de le penser pour le penser. Alors ici, c'est marqué dans le Rambam. Chayav Adam le'arot et atzmo. Un homme, il doit se montrer à lui-même. La mitzvah, c'est pas seulement de raconter. La mitzvah, c'est de te donner les moyens de ressentir. La même manière que toi, tu vas faire une mise en scène pour que ton fils, ça lui fasse de l'effet. Et ça lui fait de l'effet. Ouais. Alors toi aussi, entre guillemets, tu vas te faire une mise en scène pour que ça te fasse de l'effet. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ça te fasse de l'effet. C'est ça, les arot et tatsmo. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je veux bien qu'on va faire la mitzvah cette année de raconter la sortie d'Égypte. Et je veux bien qu'on va s'asseoir et qu'on va acheter la matzah et qu'on va acheter pour 5000 balles de produits cachés. Tout ce que tu veux, je veux bien. Mais il faut pas oublier le principal. C'est quoi le principal? C'est qu'est-ce qui va se passer dans ta tête le soir de la sortie d'Égypte? Un enfant, on lui raconte une histoire. Vous savez que l'enfant, il a un pouvoir d'imagination extraordinaire. Vous avez remarqué, quand vous racontez une histoire à l'enfant, il est pris dedans. Et alors, il ouvre la porte. Et alors, c'est normal, pourquoi? Parce que comme l'enfant, il a un pouvoir de créativité qui est extraordinaire, donc pour lui, la distance entre le vrai et les faux, elle est très très limitée. Regardez à quel âge les gens ils vont voir Harry Potter. Vous voyez un petit peu l'âge des enfants aujourd'hui? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'enfant, l'imagination et le réel, c'est très... Le problème, c'est que plus on grandit, plus le réel il s'impose et l'imagination elle s'estompe. D'accord? Maintenant, sans imagination, pas d'ambition. Sans imagination, pas d'implication. Sans imagination, pas de projection. Pas d'anticipation. Donc, t'as besoin de l'imagination. Mais l'imagination, pas pour imaginer pour imaginer. Ça, c'est ou de la paresse ou de la drogue. Non. Imaginer pour devenir. Les harot et tatsmo, ça veut dire que tu te crées un climat qui t'oblige à devenir. La Torah, elle t'a dit, tu dois te donner les moyens. Maintenant, regarde bien. Maintenant, en même temps que toi, t'es en train de raconter à l'enfant. Et que pour l'enfant qui est pris dans le trip de l'histoire, parce que tu racontes bien. Donc, l'enfant, il est en train de vivre la sortie d'Égypte. Ouais. Alors, dis-moi, qui c'est qui va te la raconter à toi? Comme tu veux, non? C'est ça qui est important. Est-ce que toi, maintenant, t'es en train de sortir d'Égypte, maintenant, là. Tu dis, non, moi, je lui raconte, monsieur, je... Mais, si tu crois pas dans ce que tu dis, l'enfant, il croit pas dans ce que tu dis, alors quand tu finis le chaperon rouge, tu lui dis, c'est une histoire. C'est bien. Mais attention à toi, que ton fils, pendant 20 ans, tu vas lui faire la Agada, et qu'au bout de 20 ans, il va te dire, mais c'est des histoires. C'est des histoires. C'est pas des histoires. C'est le fondement de la vie. Ton fils, tu lui passes le fondement de la vie. Tu sais pourquoi il a senti que tu lui as passé le fondement de ta vie? Parce que ta vie, elle est fondée là-dessus. Mais si pour toi, c'est des histoires, ben l'enfant, il comprend pas. La preuve, il se marie avec une Égyptienne. Alors? Tu vois qu'il a pas compris? Les gens, ils me demandent, le soir de Pessah, est-ce que c'est grave si il y a quelqu'un qui vient à la table de... Je dis, c'est pas, au moins un soir par an, il faut sortir d'Égypte. À table, comme ça. Question, tu veux de la matza? Oui, je veux bien participer. Un soir par an. Je t'ai pas dit 364 soirs, tu dis, c'est pas évident, c'est la famille, c'est mon beau-frère. Mais un soir par an, on peut sortir, s'il te plaît, d'Égypte, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est marqué ici. Que quelqu'un, il doit comprendre. Que la mitzvah, c'est de se donner les moyens de ressentir quelque chose. Et que si pour l'enfant, il y a un pouvoir extraordinaire de vivre réellement ce que son imagination lui impose, il doit y avoir un pouvoir chez la personne d'autoconviction qui peut faire que quand, même quand elle est adulte, pour elle, ça participe de sa réalité. Donc dans quelle mesure est-ce que nous, au moment où on est en train de raconter la sortie d'Égypte, on est réellement en train de sortir d'Égypte? C'est ce qui est marqué ici. Que quoi? Que nous, on doit manger, on a dit, on doit manger le maror. C'est quoi le maror? C'est l'amertume. Quelle amertume? Alors nous, on a dit, c'est l'amertume de l'esclavage d'Égypte. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, avant de faire ce cours, tous les ans, je vous fais le cours sur la matzah et le cours sur le hametz? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on essaye de comprendre, c'est que quelqu'un, il doit détruire le chametz. C'est quoi le chametz? C'est la dépendance que tu entretiens avec ta matière. C'est la dépendance que tu entretiens avec le yetzer hara, avec le mauvais penchant, avec tes petitesses, avec ta mesquinerie, avec ta lourdeur, avec ton manque de changement, avec ton manque d'épanouissement. Maintenant, t'as brûlé le chametz. Quand t'as brûlé le chametz, tu peux manger la matzah. Parce que la matzah, on a compris comment c'est synonyme de plénitude. Donc maintenant, Mitzrayim, pour nous, c'est quoi? C'est l'Égypte. Mais Mitzrayim, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est aussi les limites. Metzarim, c'est les limites. Donc maintenant, toi, tu dois sentir que tu sors de tes limites. Tu sors de tes limites. Maintenant, tu as des limites intellectuelles. Par exemple, les gens, ils disent, oh, vous savez, je suis ignorant, j'ai pas appris. Vous savez, j'ai grandi dans une famille traditionnaliste ou pas de traditionnaliste ou pas pratiquant. Puis on n'a jamais connu ça chez nous. Je dis, mais quand t'es né, t'as connu les maths? Non. Alors comment t'as appris les maths? T'aurais dû être nul par tradition en maths. T'as un père qui est nerveux. Comment ça se fait que t'es calme? Ah non, mais j'ai pris sur moi. Moi, je veux pas être comme lui. Il a trop souffert. Mais fallait par tradition être comme ton père. Donc, tu vois bien que t'as changé. Pourquoi? Parce que t'as cassé tes limites. Peut-être qu'on t'a dit que t'étais nul quand t'étais petit. Toi, t'as dit non, je vais casser mes limites. T'es devenu bon. C'est-à-dire, oh mais j'ai pas envie moi, les gens ils sont pas gentils avec moi, j'ai pas envie d'être gentil avec les autres. Tu dis, je m'en fous, moi, que tout le monde crève et je vais être gentil avec tout le monde. Casse tes limites. Tu dis, mais moi, on me respecte pas. Casse ton ego. Moi, j'ai besoin, moi qu'on m'apprécie, qu'on me donne du kavod. Les gens respectables, on les respecte. Les gens respectables, on les respecte. Les gens respectables, c'est des gens qui respectent et qui se respectent. Maintenant, les gens qui se respectent pas, on les respecte pas. Parce que l'autre, il va pas être plus, il va pas être mieux avec toi que tu n'es avec toi-même. Et toi, tu te respectes pas, pourquoi veux-tu qu'il te respecte? Donc quand tu te respectes, tu casses tes limites. Tu sors d'Égypte. Limite intellectuelle. Limite morale. Comment expliquer? Ouais, je peux pas. Oh, c'est trop religieux ça, c'est trop. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Un religieux peut en cacher un autre. Demandez à la SNCF. La barbe, ça pousse tout seul. Moi, ça me fait rigoler. Les gens me disent, vous savez, l'année prochaine, si tu veux, je vais faire Shabbat. L'année d'après, je mets les téfilines. Et binéder, encore dans 2 ans, je vais commencer un petit peu à étudier la Torah. Et moi, je rigole. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que le jour où tu feras 613 mitzvot, ça sera le début de l'histoire. Le début. Le début. Et toi, tu veux commencer dans 10 ans. Mais c'est rien. Rabotaï, d'accomplir les mitzvot, c'est normal. C'est normal. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas devenir grâce aux mitzvot? Mais est-ce que tu vas devenir sans les mitzvot? Allume ta télé, tu vas voir ce que tu vas devenir. C'est pareil. Donc, il faut arrêter les limites. Moi, je suis pas religieux. Moi, je suis trop religieux. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme lui. Je suis pas comme elle. Je suis pas comme ta sœur, ta mère. Toi. Comment tu la sens la Torah? Tu la sens vraie ou tu la sens fausse? Tu la sens vraie? Vas-y. Toi, tu la sens nette? Vas-y. Tu la sens construite? Vas-y. T'as des questions? Pose tes questions. Je dis, non. Ah, j'adore, moi. Oh non. Non, écoutez, moi, je. T'as des questions? Sois honnête une fois dans ta vie! T'as des questions? Pose tes questions. T'as peur de quoi? Ah, tu dis, ouais. C'est ce que quoi? T'as peur des réponses. T'as peur des réponses. Pourquoi les non-religieux parlent jamais avec les religieux? Jamais. Ah, quand ils sont entre non-religieux, ah ouais, la Torah, obscurantisme, orthodoxie, ils sont fermés, ils comprennent rien. Mais Havon, mais ça fait 20 ans que je t'attends, vas-y. Tu veux quoi? Avec la kippa, sans kippa, avec les gants, sans les gants, qu'est-ce que tu veux? Ah non, mais je connais. Une fois quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit non, mais Chetrit, trop extrême, trop fermé. Il faudrait bien savoir ce que veut dire fermer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un, il arrive à comprendre que dans la vie, il faut un peu déchirer les limites. C'est comme ça que tu avances. Donc quelqu'un, il va détruire ce qui l'empêche d'avancer. Ton orgueil, il t'empêche d'avancer. Remets-le en cause, c'est pas grave. C'est pareil, le sentiment du Sherwood. Les gens, ils se plaignent. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, mais dites-moi, M. Benchetrit, vous, les religieux, vous sentez pas frustrés? Je suis frustré? De quoi? Je comprends même pas ton problème. Le Sherwood, l'esclavage, c'est quand l'esclavage, c'est une norme auquel tu appartiens et que tu maîtrises pas. Même t'es esclave de la télé, t'es esclave du fric, t'es esclave du regard de l'autre, t'es esclave du décolleté de la voisine, t'es esclave du stress de ton patron, t'es esclave de ton angoisse, t'es esclave de... Combien t'es esclave, toi? Déjà, regarde sans la religion combien t'es esclave. Or, l'acquisition de la Torah, elle t'oblige à te libérer. Par exemple, t'es esclave de ton orgueil, t'es obligé d'étudier en groupe. Tous les jours. Il n'y a même pas une meilleure école pour apprendre à s'écraser un peu que d'étudier à deux. Parce que t'es obligé d'apprendre à écouter l'autre. T'es obligé. C'est pas une raison professionnelle. C'est pas une raison intellectuelle. T'es obligé d'écouter l'autre. Parce que peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Apprends à te taire. Donc, l'acquisition de la Torah, elle t'oblige à changer. T'es obligé de te purifier. T'es obligé de lutter contre tes pulsions. Puis je peux pas, moi je vois une saucisse, t'arrives, faut que je la mange. T'es un cheval. Non, mais je peux pas, c'est là, bah c'est, ça me prend comme ça, ça, ça. Non, mais libère-toi, là. Je peux pas, écoute, j'arrive pas. Mais libère-toi. Mais t'es un animal. T'es quoi? Mais t'es libre de quoi? Comment tu vas t'habiller? C'est écrit dans la mode. Ce que tu penses, c'est écrit. Ta coupe de cheveux, elle est déjà fixée. Tu te lèves le matin, on sait comment tu vas te couper les cheveux, mais t'es libre de quoi? Les CD, t'es obligé d'écouter, c'est pas dans le coup. T'as pas lu le bouquin, t'es pas dans le truc. T'as pas vu le film, t'es mort. T'as rien. Même ta coupe de cheveux, tu l'as pas choisi. Rien, ta démarche, elle est inscrite dans une logique commerciale. Faut que tu marches comme ça. Je les vois, moi je les regarde, je dis, quand je pense qu'il y en a qui vont au zoo, c'est pas la peine. Ah, je m'éclate dans la rue, moi. Et encore, je branche pas l'ordinateur tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis, mais purée, les gens, ils sont libres de quoi? Et tu dis, mais vous, vous êtes frustrés? Mais frustrés de quoi? Ah, bataille, vous comprenez pas. Quand quelqu'un, il fait du bien, s'il veut, il fait du mal. Mais quand quelqu'un, il fait du mal, s'il veut, il peut pas faire du bien. Quelqu'un qui a détruit la pudeur, comment il va retrouver la pudeur? Quelqu'un qui a détruit la candeur, quelqu'un qui a détruit la finesse, ça fait des années qu'il est grossier. Comment il devait devenir fin? Il peut pas. Depuis quand les grossistes, ils rentrent dans le détail? C'est pas possible. C'est trop dur, il comprend même pas. Il dit quoi? Une veste. Un torchon. Prends un torchon, on va te laver. Une veste. Il comprend pas. C'est pareil. Donc les gens, ce qu'ils comprennent pas, ce que eux, ils appellent la liberté, c'est quoi? C'est la liberté animale. C'est vrai que bestialement, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ils peuvent vomir, rôter ou autre chose. Ils sentent bien. Ils sont libérés. Mais ils ont libéré qui chez eux? L'animal. Mais la personne elle-même, le jeu. Mais on n'a jamais vu autant de frustrés et d'angoissés et de complexés qu'aujourd'hui. Moi, je pose une question. Moi. Pourquoi il y a 25 millions de Français qui prennent des antidépresseurs? Ils devraient être heureux. Pourquoi il y a au moins 15 ou 30 millions de personnes qui suivent une thérapie en régulier? D'accord? Pourquoi il y a des nouveaux journaux qui sortent genre psychologie? Pourquoi dans tous les journaux il y a une passage de psychologie? Pourquoi? Parce qu'ils sont trop heureux les gens, ils sont trop construits, ils sont trop équilibrés, ils sont trop bien, ça se voit sur leur tête. Et pourquoi ils se droguent? Pourquoi? Et pourquoi ils s'inventent toujours des nouvelles drogues? Mais pourquoi ils sont pleins, ils ont rien à remplir, ils sont bien dans leur peau. Pourquoi? La société, elle libère pas. Au contraire, elle te crée des nouvelles dépendances. Maintenant, t'attends les prospectus de Carrefour. T'attends le nouveau magnétoscope. T'attends le nouveau portable. Il va sortir. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là, il fait l'internet et tu peux prendre des photos. Et le mien, il fait les glaçons. Ah! Et toi, tu es libre? Toi, tu parles de liberté, toi? Mais t'es un esclave. T'es esclave. Du matin au soir, t'es esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Rambam, il a dit qu'un homme, il doit se libérer du shirvud mitraim. Il doit se libérer de l'esclavage. Effectivement. Effectivement que cet esclavage, il est là. Pourquoi est-ce qu'on a fait la mitzvah de Hametz et pourquoi est-ce qu'on a fait la mitzvah de Matzah? Parce que justement, quelqu'un, il va s'interroger et il va voir toutes les limites qu'il contient lui-même. Il dit, mais comment je... Regardez les gens, comment ils souffrent, rien que de l'amour propre. Quelqu'un avec son amour propre, il a raté ses études. Avec son amour propre, il a cassé son couple. Avec son amour propre, il a détruit ses enfants. Rien qu'avec l'amour propre. Mais l'amour propre, c'est une facette de la personne. Rien pour ce qu'il a pas travaillé ça, il a pas construit ça. Il dit non mais moi je peux pas, j'arrive pas. Mais c'est rien Rabotai, rien que parce qu'il est esclave. Mais c'est rien, je vous le dis, c'est un début. Quelqu'un il va régler son problème d'amour propre, il va ouvrir des portes, mais il a pas tout réglé encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un il est dans un esclavage, il est enfermé. Il y a des miradors, il y a des barbelés, il y a des mitraillettes. Pourquoi? Et si tu vas me dire, mais c'est pas heureux, quoi, faut pas exagérer. Ah, moi, je pose une question. Les gens, tu leur poses, tu leur donnes les moyens, tu leur montes la porte, tu leur montes la sortie. Non, c'est trop dur. Faut se remettre en cause. Faut écouter ça. Faut réfléchir, monsieur. Faut prendre des notes. Le petit train-train. Ouais. T'as vu les trains où ils allaient? Ils s'en foutent, les gens. Et ça, c'est un truc incroyable. Avant, je donnais cet exemple, je sais plus si vous l'avez entendu, je m'en rappelle plus. J'ai dit, imaginez quelqu'un, il est né dans un camp de travail. Depuis qu'il est bébé, il est né dans un camp de travail. Un camp de concentration, un camp de travail. Et son père était aussi esclave dans ce camp de travail. Et son grand-père était, et son arrière-grand-père. Ça fait 20 ou 30 générations qu'ils sont là-dedans. Et ce petit jeune, là, de 20 ans, qui a grandi esclave et qui a toujours vécu esclave, il est en train de marcher dans le camp, et il y a un garde qui lui dit, tiens, le directeur du camp, il t'appelle. Bon, il y va. Le chef du camp, il l'assoit en face de lui, il dit, dis-moi, quel âge tu as? Il dit, j'ai 20 ans. Il dit, tu es né ici? Il dit, oui. Ton père aussi? Il dit oui. Et ton grand-père aussi. Il est dit depuis quand? Il dit je sais pas, depuis les générations on se rappelle, on a toujours été esclaves. Alors il lui dit, le chef du camp lui dit, écoute, tu veux un truc? Je te pose une question théorique. Et si tu réponds à cette question théorique, je te libère du camp. Je te donne 24 heures pour réfléchir. Demain, tu viens. Je te pose une question. Si tu réponds à la question, tu dis une épreuve, il faut soulever des cailloux, il faut tuer quelqu'un. Non, non, non. Une question entièrement théorique. Si tu réponds à cette question entièrement théorique, demain, t'es libre. Il va voir son père. Il dit, papa, regarde ce qu'il m'a dit le chef du camp. Il m'a dit, si je réponds à une question entièrement théorique, il me libère. Le père, il dit, c'est pas possible. Il a dit, les miradors, c'est des vrais miradors. Les barbelés, c'est des vrais barbelés. Les mitrailleuses, c'est des vraies mitrailleuses. Les soldats, c'est des vrais soldats. On n'est jamais sorti de ce camp. Tout le monde est prisonnier de ce camp. On est esclave de camp, fils d'esclave. On sait même pas ce que ça veut dire la liberté. Et toi, tu viens et tu me dis que le chef du camp, il t'a dit que si tu réponds à une question théorique, tu vas sortir du camp. Alors le fils, il dit, écoute papa, moi, il m'a donné l'occasion. Je vais y aller demain. Alors, le lendemain, le fils, il y va, il s'est préparé, il a bien dormi toute la nuit, il a pris 9 cafés le matin, il a une pêche, il s'est préparé. Il a fait des pompes, il dit, maintenant, je suis prêt à n'importe quelle question, les logarithmes, les équations, la physique nucléaire, tout, il est prêt à tout. Alors, le chef de camp, il a dit, t'es prêt? Je suis prêt. Je te pose une question. Si tu réponds à la question, t'es libre. Il dit, oui, je suis prêt. Il le regarde comme ça, il lui dit, est-ce que le camp existe? Il est fou, quoi. Il existe le camp. Je l'ai vu, le. Il m'ira, là. Il réfléchit. Il dit, attention, t'as droit qu'à une réponse. Je te pose, est-ce que le camp existe? Commence pas à discuter, je te pose une question, tu me donnes une réponse. Il commence à réfléchir. Il dit, pourquoi il me pose la question? Si le camp existe et qu'il me pose la question, elle est débile l'histoire. Évidemment qu'il existe, que je le vois tous les jours. Donc s'il me pose la question, c'est que déjà on peut envisager que le camp n'existe pas. Je dis, mais comment je peux croire que le camp n'existe pas, puisque je le vois tous les jours, et que je le vis tous les jours, et que mes parents l'ont vécu, et que je suis aussi mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Alors? Et il tourne l'histoire dans tous les sens. À la fin, il dit, le camp n'existe pas. Et il dit, t'es libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabotai, les limites, les miradors, les barbelés, la petitesse, la mesquinerie, l'ignorance, les traditions, l'ambiance, le goy, la société, la télé, la bouffe, les habitudes, la lourdeur, la drogue, le manque de respect de soi, tout ça, c'est un camp. T'es dans un camp. Alors tu dis, mais ce camp, il est réel, puisque mes parents y étaient, mes grands-parents y étaient, tout le monde y était. Je peux pas imaginer d'être ailleurs, puisque je suis dedans, et j'ai grandi dedans. Alors je dis, c'est une réalité. Comme ils te disent, les malades, ils te disent, mais il faut être réaliste. Je te dis, oui, à une condition. C'est que tu répondes à la question. Est-ce que le camp existe? Alors moi, je connais plein de malades mentaux. Plein, dont je fais partie d'ailleurs, qui pensent que le camp n'existe pas. Le bitachon, c'est quoi? La confiance en Dieu? Le camp n'existe pas. La prière, c'est quoi? Le camp n'existe pas. La mitzvah, c'est quoi? Le camp n'existe pas. Croire dans le potentiel de l'autre? Le camp n'existe pas. Croire dans ton avenir? Le camp n'existe pas. Croire dans ton couple? Le camp n'existe pas. Croire dans la paix? Le camp n'existe pas. Le camp n'existe pas. C'est dans ta tête, tout ça. Tu dis, mais quand même, ça a l'air vachement réaliste. C'est dans ta tête, t'as pas pigé encore. Tout ça, c'est théorique. C'est-à-dire, c'est l'inverse. La question, elle est vraie. Mais le problème est théorique. Exactement le contraire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils disent, mais on a un vrai problème. On a un vrai problème. Alors que toi, tu nous proposes la théorie. Combien de fois les gens, ils me disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, prie. Il me dit, mais je vous dis que j'ai un problème. Vous me dites de prier. Mais ton problème, c'est un halom. Dieu, il t'a créé un problème pour que tu pries. Donc quand tu pries, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Tu dis mais tu peux me donner une réponse théorique, un problème réel. Mais t'es lourd ou quoi? Je te dis qu'il y a pas de problème. Et tu vas me dire bah écoutez, moi je crois pas, moi je crois qu'il y a un problème. Regarde, t'arrives pas à parler avec ton fils. Mais casse-toi un peu les midotes. Il y a plus de problème. Il attend que ça, ton fils, il attend que ça que tu lui parles. Ouais. Et toi, c'est rien que ton ego qui t'empêche de lui parler. Donc t'as un problème, t'as pas de problème. C'est rien que dans la tête. Ta femme, ça a des années. Elle m'écoute pas. Ça fait des années qu'elle t'attend. Elle attend que ça. Tu t'assois, tu lui dis, je veux parler avec toi en adulte. Tu dis, mais ça fait 20 ans que ça marche pas. C'est un problème réel. L'esclavage, il est théorique. La liberté, elle est réelle. Exactement l'inverse de ce que tu crois. Donc, Hayav Adam Leharot et Atzmo, un homme, il doit se montrer à lui-même, qui sort d'Égypte, maintenant, ouais, t'as raison. Parce que maintenant, t'es en Égypte. Maintenant, t'as une question. Est-ce que cette Égypte, elle est réelle, ou est-ce que cette Égypte, elle est virtuelle? Il y avait un Rav. Il fumait 4 paquets de gitanes par jour. Des gitanes maïs sans filtre. Je sais pas si vous sentez, ça veut dire que vous pouvez donner votre corps directement aux autoroutes. Vous le donnez, ça fait à peu près 20 kilos de goudron. Et un jour, quelqu'un lui a dit... Non, un jour, il a réfléchi et il a arrêté. Comme ça. Du jour au lendemain, il a arrêté. Il lui a dit, mais comment vous avez fait? Le médecin, il vous a fait peur. C'est ce qu'il a dit? Il a dit, je me suis rendu compte que j'étais dépendant. J'ai arrêté. Tu dis, la drogue, tu l'as dans les tripes, hein, le tabac, il est dans ton ventre, hein, c'est pas facile. C'est quoi, c'est pas facile? Si on te disait, ou tu arrêtes de fumer, ou on tue ton fils, ou tu arrêtes de fumer, ou on prostitue ta fille, tu peux arrêter d'un seul coup? Tu dis, c'est normal. Alors on te dit, ou tu arrêtes la cigarette, ou tu continues à te prostituer à la cigarette. Ou tu arrêtes la cigarette, ou tu continues à mettre toute ta famille sur la sellette des nerfs parce que tu fumes pas le Shabbat. Ou tu arrêtes la cigarette, ou toi-même tu deviens un mégot. Alors, tu peux pas arrêter la cigarette. Combien de temps ça prend la prise de conscience? À peu près 1/100 de dixième de seconde. Alors dis-moi, ton problème il est réel? Ton problème, il est réel? Moi, je crois pas. Moi, je crois que ton problème, il est virtuel. Mais ta confiance en toi, elle est pas réelle aussi. Ta confiance en Dieu, elle est pas réelle. Parce que ta confiance en Dieu, elle est réelle. Mais il n'y a rien. Comme les adultes, quand vous trouvez un héros, vous dites quoi? Vous dites, mais comment t'as réussi à faire ça? Et tu dis, mais c'est normal. Pour lui, ce qui est normal, pour toi, c'est extraordinaire. C'est un fantasme. Parce que seulement, vous avez fait un échange. Parce que toi, tu vis dans le virtuel et lui vit dans le réel. Donc dans le réel, trouve ça normal. Dans le réel. Vous comprenez? Maintenant, le contraire. Si quelqu'un, il accepte qu'aujourd'hui, en 2002, il est esclave. T'es esclave. Arrête de te baratiner. T'es esclave. Regardez, t'es esclave de la liberté. Tu dis, oh, mais vous rendez compte, avant, ils étaient enfermés dans un ghetto. Kof s'est enfermé dans un ghetto. Ils faisaient du commerce entre eux. Et la majorité, ils étudiaient la Torah toute la journée. Maintenant, t'es libre. Maintenant, t'es esclave d'IBM, t'es esclave de Ronde Poulenc, t'es esclave des horaires, t'es esclave de tes primes, t'es esclave de ton portable, t'es esclave de ton palme. Donc, t'es libre de quoi? T'es juif? Il dit, oui, je suis juif, oui. Quand tu peux consacrer du temps pour ton judaïsme, il y a à peine 12 heures, juste 12 heures pour Israël, c'est tout. Mais alors, t'es libre de quoi? Mais t'es pas libre. T'es un esclave. L'autre, il est esclave de ses pulsions. C'est esclave. Combien de fois j'ai dit aux filles, pourquoi vous habillez comme ça? Pourquoi? Serré, coincé, écrasé. T'es bien dans ta peau. Ben, il te reste plus que la peau. T'es bien dans ta peau. Je sais pas, moi. Pourquoi les chemisiers, c'est quand ça rentre comme ça, et que ça serre comme ça, et que ça... On est bien dedans, j'ai jamais pigé. Non. Avant, les gens, ils mettaient des trucs amples. Maintenant, ils mettent des trucs, ils disent, c'est la mode. Mais bon, je comprends que le garçon, ça l'intéresse que tu t'habilles comme ça. Mais toi, ça te dérange pas? Tu dis, on s'habitue. Une jupe fendue jusqu'ici, on s'habitue. C'est une cape? Non, c'est une jupe. Ah bon? Le plus rigolo, c'était les jupes portefeuille. Ça m'a fait rigoler, ça. J'ai dit, quand vous l'achetez, vous achetez aussi avec la crème. Il dit, pourquoi la crème? Je dis, parce que quand vous marchez pendant toute la journée en tenant la jupe, à la fin, vous mettez la crème ici le soir. Et la main, tu la tiens pas? Ah, tu la tiens pas. Ah, c'est carrément autre chose maintenant. Tu la tiens pas? T'as un problème. C'est un métier. Demain, tu fais ça gratuit. Ils sont fous, les gens. Alors, tu sais que tu vas te dire, c'est pareil. Il a dit, vous portez les jupes. Il m'a demandé, on a le droit de porter la jupe jusque-là? Mais non, quand tu t'assois, elle est où? Ah, mais je m'assois pas. Quand je fais avec les canapés profonds? Oh, ben là, je fais cadiche carrément, là. Bah, tu t'assois, les jupes, hop, elle est, c'est un nouveau modèle. Ça se rétracte. Mais bien sûr, ils vont sortir les fluos, les soucis à gorge qui s'allument quand on les regarde. Ça va venir? Infrarouge, heck. Après, ils vont dire, oh, t'as une allumeuse, hein, allumée. C'est la folie. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? C'est quoi la limite de la mode? Ça m'intéresse. Donc, t'es esclave de ton image, t'es esclave de la mode, t'es esclave de la télé, t'es esclave. Combien t'es esclave? Maintenant, c'est quoi Pessah? C'est un moment pour prendre conscience de l'esclavage et pour sortir d'Égypte. Donc, Chayav Adam Leharot et Atzmo Keilu Yatsa ou Be'atzmo. Il a dit lui-même, le Rambam, on parle de toi. Tu crois que tu vas nous raconter l'esclavage en Égypte il y a 3000 ans? Mais ça nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, est-ce que toi, tu vas sortir d'Égypte, toi, cette année, toi? Tu vas prendre sur toi, tu vas dire les boîtes de nuit, c'est fini. Tu vas être capable de faire ça? Tu vas dire le dernier qui me touche, c'est mon mari. T'es capable de faire ça? Ou tu dis, oh ben non, c'est trop, faut y aller doucement. C'est ça, viens avec ton bébé sous la roupa, chérie, viens. C'est ça, doucement. Ou tu te respectes, ou tu te respectes pas. Ou tu penses que t'es juif, ou t'es pas juif. Ou tu penses que la cacheroute, ça fait partie de la Torah, ou ça fait pas partie de la Torah. Il y a pas de très loin. Tu me dis, c'est pas évident, j'habite à 10 minutes de Montmartre. Eh ben, achète deux sandwichs. Qu'est-ce que je te dis? Exactement pareil. T'es esclave. Si encore tu croyais pas, si tu le pensais pas, mais tu penses tout ça. Tu le penses. Toi-même, t'as un problème, t'es capable de remonter le moral à l'autre. Combien de fois des gens ils viennent me dire, vous savez, monsieur Menchetrit, j'ai parlé à quelqu'un, je vais ramener à la Torah. Je dis, Haza, je dis, toi, quand est-ce que tu viens? Oh, bah, oh! Ah, mais il revient de loin, hein. Mais t'es pas encore là, toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand est-ce que pour toi, toutes ces idées, elles vont devenir réalité? Quand est-ce que pour toi, ça va faire partie? C'est ce qui est marqué dans le Rachaz, c'est quoi? C'est que, dans le Maral, c'est marqué, Akadosh Bokhu Birvodo Beatzmo Ga'alotanu. Akadosh Bokhu lui-même, il est venu, nous a sorti d'Égypte. Pourquoi? Kedeshetie Geula Azot Olamit ou le Kol Adorot, afin que cette délivrance, elle soit éternelle et pour toutes les générations. Regardez ce qui est marqué, Rabotai. Quand un homme, il fait quelque chose, l'acte, c'est la projection de la personne. Donc l'acte, il pourra pas avoir une plus grande taille que la projection d'un homme. Maintenant, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a tenu lui-même à nous sortir d'Égypte? Pourquoi? Parce qu'il a voulu inscrire dans le temps que la sortie d'Égypte, elle sera éternelle. Ça veut dire que dans n'importe quelle génération, si quelqu'un, il veut sortir d'Égypte, on lui dit la porte, c'est le 15 Nissan. Le 15 Nissan, tu peux sortir d'Égypte. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a déchiré la muraille ce jour-là. Il a cassé. Comme il raconte le Midrash, il y a un roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 15 prisonniers en prison. Le lendemain, qu'est-ce qu'il y en a fait pendant la nuit? Il y en a 14, ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire? On va creuser un tunnel, on va partir. Alors ils ont creusé, ils sont partis. Le lendemain, le roi, il vient. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y en a 14 qui sont enfuis. Et il y en a un, il est resté. Il a dit, où ils sont les autres? Il dit, ils sont enfuis, monsieur le roi. Il dit, Wartfayo, ouais. Il a dit, mais moi, monsieur le roi, je suis resté. Alors qu'est-ce qu'il a dit le roi? Il a dit, vous là, attrapez-le, mettez-lui 50 coups de fouet, celui-là. Il dit, mais monsieur, moi, je suis resté. Je vous dis, c'est pareil. Il dit, je vous ai fait un monde dur. Je vous ai créé une prison. Je vous ai créé un Yetzerara. Je vous ai créé des angoisses. Je vous ai créé des stress. Je vous ai créé la société. Je vous ai créé l'ignorance. Mais je vous ai ouvert une porte qui s'appelle la Teshuva. Je vous ai creusé un tunnel pour vous enfuir. Et vous, bah, vous êtes resté dedans pour dire à Dieu, ah, moi, je suis pas parti avec les autres. Mais t'as fait plaisir à qui? Les gens, ils sont frais à faire plaisir à leur Yetzerara. Mais tu peux pas faire plaisir à Hachem. Dis-moi, il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne tout, tu peux pas lui faire plaisir un petit peu, tu dis, ah, oh, c'est pas évident, vous savez, au 20e siècle. D'accord, ça fait 20 siècles qu'il t'attend, ça va, oui. Tu peux bouger un peu, tu peux te réveiller. Exactement pareil. Que Akadosh Baruch Hu, il donne un temps privilégié. Ça veut dire que le soir de Pessah, les portes sont ouvertes. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que si Hachem il a dit tu te prépares, tu brûles le hametz, tu fabriques la matzah, tu manges la matzah, tu racontes la sortie d'Égypte, c'est pourquoi faire ? Pour que ça te produise un effet. Mais quel effet ? L'effet que tu te sens dans un film en 3D ? Non. L'effet que tu as compris que ce soir-là, tu peux sortir de tes limites. C'est ça que c'est marqué dans l'Orachaz. Kol amarbe lesaper beyitziat mitzrayim areze meshubah. Tout celui qui va augmenter dans le récit de la sortie d'Égypte areze meshubah. Normalement, meshubah, ça veut dire qu'il a plus de mérite. Mais meshubah, ici, ça veut dire milashon mashbiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il est embelli ce soir-là. Quelqu'un, il va réfléchir encore une fois pour les enfants. Vous leur racontez la sortie d'Égypte. Mais pour les adultes, ceux qui racontent, qui c'est qui leur raconte à eux? Qu'est-ce qu'ils deviennent, eux? Ça y est, ça fait 35 fois que tu fais la gada. Maintenant, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te produit chez toi? Donc, toi, tu fais ton petit bilan. Tu dis, je suis esclave de quoi? C'est ce que t'as cherché quand t'as cherché le Hametz. Maintenant, tu sais sur quoi t'es esclave. Ce soir-là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi. Le soir de Pessah, c'est un soir de libération. Parce que le temps, il contient la libération. Profites-en. Maintenant, tu peux te libérer après. Tu peux te libérer toute l'année. Mais la porte, elle n'est pas ouverte. Il va falloir que tu creuses. Maintenant, Hachem, il a ouvert le ciel. Tous les anges y viennent. Ils disent, on t'écoute maintenant. Qu'est-ce que t'as à nous dire? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Donc, tu peux libérer à Kadosh Baruch Hu. T'as senti quelque chose, t'as vécu quelque chose, t'as entendu quelque chose dans un cours, t'as vu une prière, t'as envie d'être solidaire d'Israël, t'as pleuré pour les attentats, t'as été au Kotel, t'as quelque chose dans le cœur. Libère, libère ce que tu as dans le cœur. Au lieu de libérer ton corps pour être un brel moyen, tu libères ta neshama, laisse-la vivre un peu. Tu sens que la Torah est vraie, vas-y plonge, arrête de nous faire tminique. Ouais, mais vous comprenez, c'est pas évident, et puis comment je vais faire si je dois travailler Shabbat? Eh ben, si tu dois travailler Shabbat, eh ben, meurs! Meurs maintenant, comme ça tu meurs tzadik. Tu vas pas travailler Shabbat. Parce que tu vas réfléchir avant, tu vas trouver une filière, tu vas aller voir ton patron, tu vas lui parler, tu vas trouver un remplaçant, tu vas payer à sa place, tu vas perdre ta paye, tu vas trouver une solution. Tu vas travailler, ça veut dire que t'es condamné, ça y est, t'as recommencé, et les miradors, et les prix, et je peux pas, vous comprenez, je peux pas. Comment je vais faire? C'est trop difficile, t'es condamné. La Torah, elle a été donnée il y a 3500 ans. Depuis 3500 ans, il y a des gens qui font Shabbat. Et rien que toi, t'es bloqué. Rien que toi. Tu pourras pas, je peux pas. Je travaille dans le domaine du cinéma et arrête ton cinéma. J'ai un magasin, mais il travaille que le samedi. Il est ouvert que samedi. Il s'appelle Hilul Shabbat. Je peux pas fermer. Il dit, je suis dans un centre commercial. C'est le centre commercial. On peut pas fermer Shabbat. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais dans un centre commercial? Qu'est-ce que tu fais dans un centre commercial? Tu dis, c'est une opportunité. Ah bon? T'es sûr? Mais toute la vie, il y a des opportunités de se planter, toute sa vie. Mais alors, quand t'as mis le pied dedans, même si ça porte bonheur, qu'est-ce que tu fais? Tu plantes du gazon autour. T'enlèves ton pied. Tu t'essuies ton pied et tu avances. Non, il a mis le pied dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il met le deuxième pied. Écoutez, ils me le disent d'ailleurs. Écoutez, je suis dedans. Je suis dedans là. Je vois. Eh ben sors. Mais dégage. Libère-toi. Réfléchis. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Déjà la tête, tu vois qu'il a pas envie de s'en sortir. Comment je vais faire? Oh là là. Le mec, il a les menottes, il a les clés. Il dit comment je vais faire? Mais ouvre les menottes. Tous les nazis sont morts, la porte est ouverte. Mais vas-y, tu dis, oh non, mais j'ai peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis habitué, moi, dans cette prison. J'ai mes petits repères, j'ai ma petite télé, j'ai mes petites lourdeurs, j'ai ma petite Avera. Régulière, cyclique. Ou la Catherine, ou la Christine. J'ai pris mes petites habitudes. Comment je vais faire, moi, avec Myriam? Elle va me dire, tu fais Shabbat, je vais lui dire, qu'est-ce que c'est? Oh non, elle me casse. Elle me casse le moral. Mais, libère-toi. Respire un peu. Sors d'Égypte. Sors. Et cette soirée, là, c'est ce qui est marqué ici. Cette soirée, elle contient un potentiel extraordinaire. Et vous savez qu'il y a deux grandes dates dans le cours du mardi, pour ceux qui redoublent depuis quelque temps. Il y a deux grandes dates qui sont importantes. Il y a Rosh Hashanah et il y a Pessah. Pourquoi? Parce que c'est des grands virages de l'année. Pourquoi tous les ans, vous avez remarqué, je vous fais le cours sur la Teshuvah et le cours sur vision de la vérité et le cours sur... Vous dites, ah, tous les ans, ils se répètent. Moi, je me répète. Ça ne me dérange pas. D'abord, je ne me répète pas parce que ce n'est jamais le même cours. Et deuxièmement, parce que pour moi, c'est très important que vous passiez bien Rosh Hashanah. Je sais que si vous passez bien Rosh Hashanah, vous allez bien passer l'année. Mais non, si quelqu'un il a passé un Rosh Hashanah un peu ludique, dans une ambiance tournélique, sur le dos d'une voiture, comme ça, pendant tout l'après-midi, on essayait de trouver son âme sœur. Qu'à la fin, quand il a dit à Hachem, bon Hachem, tu m'acceptes ma prière, Hachem, il a dit, ta sœur. Hein. Il est rentré pour le chauffard, juste à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? La deuxième date, c'est quoi? C'est Pessah. Quelqu'un, il a bien réfléchi. Il s'est bien cassé la tête. Il a bien cherché le Hametz, au fond de lui. Et il mange bien la matzah, il a compris, il a goûté le goût de la liberté. Parce que c'est quoi le goût de la liberté? C'est le goût de la plénitude, c'est le goût de la maturité, c'est le goût de la satisfaction, c'est le goût de l'effort, c'est le goût de la réalisation personnelle. Celui qui a goûté à la matzah à Rabotai, il est déjà à moitié libre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le soir de Pessah, comme Kippour à Rabotai, il prend des résolutions. Où je suis? Qui je suis? Il regarde l'Égypte autour de lui. Vous allez voir qu'elle est forte, l'Égypte. L'Égypte de la colère, l'Égypte de la petitesse, l'Égypte des nerfs, l'Égypte du manque de respect de soi, l'Égypte du regard de l'autre. T'en as pas marre, mais sors d'Égypte. Exactement pareil. Si quelqu'un, il peut faire ça, il va accomplir exactement ce qui est marqué dans la Gada. Simplement. Encore une fois, je vous répète, pour les enfants, c'est vrai que c'est une histoire, mais pour les adultes, c'est pas une histoire. Parce que si pour les adultes, c'est une histoire, c'est normal qu'ils se dégoûtent de la religion. Elle a aucun sens. Mais le contraire, si lui, il le fait vraiment comme il faut, dans la halakha, c'est ça que je vous conseille, d'accord? Vous achetez des bonnes matzot. Si vous achetez de la salade, vous vérifiez bien la salade, d'accord? Vous achetez une bonne agada et vous suivez détail par détail toutes les lois de ce soir-là pour faire la mitzvah. Vous mangez bien vos kazaïdes de matzah. Faites pas comme les brés, les gouttes. Le minimum que vous devez faire, c'est manger 30 grammes. Mais normalement, il faut manger 5 fois 30 grammes. Vous pouvez pas faire le 4 fois. Si vous n'y arrivez pas, achetez la Haggadah du Me'amloez en français. La Haggadah du Me'amloez. Vous avez le CDR qui est bien expliqué. Faites-le. Faites les choses comme la halakha. La halakha, elle vous sauve la vie. La halakha, elle vous ouvre des portes. Faites ce que la Torah demande. Et Hachem, il fera ce que vous demandez. Si vous vous moquez de lui, Hachem aussi, il a de l'humour. Mais vous appréciez pas en général. Exactement pareil. Si quelqu'un comprend ça, il comprend ce qu'on appelle le Da'at Hashem, que quelqu'un, à partir du moment où il va s'inscrire dans cette logique de recherche, il va donner une réalité aux choses, alors il comprend pourquoi est-ce que même les Chachamim, le soir de Pessah, ils doivent raconter la Gada. Parce qu'on a tous le même problème. Chacun, il doit se libérer de quelque chose. Chacun, il doit grandir. Chacun, il va évoluer. Et si quelqu'un, il va dire, ah, mais celui-là, c'est un sadique, il n'a pas besoin. Bottaï, je vous ai déjà expliqué ce qu'il dit Rav Dessler. Quand quelqu'un atteint son maximum, il meurt. Quand quelqu'un atteint son minimum, il meurt. Donc quelqu'un qui est vivant, c'est soit quelqu'un qui peut faire mieux, soit quelqu'un qui peut faire pire. Donc il a qu'à faire mieux. Exactement pareil. Encore un Pessah qu'on t'a donné. Encore un Rosh Hashanah. Encore un Yom Kippour. Alors au lieu de faire comme le Hamorim, tu dis, c'est comme l'année dernière. Non. Normalement, à la fin de la Haggadah, tu dois te sentir plus libre que l'année dernière. Comme à la fin de Yom Kippour, tu dois te sentir plus propre que l'année d'avant. Parce que si tu te sens pas propre le soir de Kippour, ça veut dire que t'as pas fait Kippour. Et si tu te sens pas libre le soir de Pessah, c'est que t'as pas fait Pessah. Tu dis, mais je comprends pas, j'ai nettoyé toute la maison. J'ai acheté 10 000 balles de produits. Ça, c'est des moyens. Mais le but à atteindre, c'est le degré de liberté que tu as atteint à la fin de la soirée. Donc c'est ce que je vous souhaite à chacun, que chacun d'entre vous y comprenne le sens et qu'il se donne les moyens, en temps réel encore une fois, de pas tomber dans le piège de la culture, de vous raconter des histoires cette soirée-là, mais de faire les choses vraiment avec intensité et avec surtout avec sincérité, et que Kadosh Baruch Hu, il ouvre le cœur de chacun de nous et qu'il nous donne le moyen de nous libérer de notre propre Égypte.